Ok, bon, c'est parti, j'ai lancé l'enregistrement.
Et merci d'avoir accepté de mentionner Amadeus parce que j'ai eu quelques petites remarques de certains qui me disent: oui, Elodie, quand même, tu es très présente chez 400, on te voit tout le temps sur les plaquettes, sur les machins et tout. Et je me suis dit, je vais éviter la polémique et si on les mentionne, ils vont être contents. Donc,
J'ai fait rentrer Isabelle. Isabelle, t'es là?
là,
oui.
Elle est dans la même pièce.
Alors attends, je vais essayer de trouver comment ça marche.
Tu vois le son, non? Donc je change de table.
Par contre, moi.
Ah oui, il y a du Larzen.
Ah, faut que
oui,
je
il y aura du Larzen. Si vous êtes dans la même pièce, ça va être dur.
Voilà, c'est mieux. Ouais,
mais par contre, ah bah oui, c'est normal, il y a du scotch sur ma.
Ah oui.
La caméra.
Ah oui.
Ah bah voilà, il n'y a plus de.
Bonjour. C'est par Grant Alexander. C'est la première mission que je fais avec ce cabinet, cette EMT. Juste pour vous donner un élément de contexte, sur les 10 missions que j'ai menées, 6 d'entre elles ont été faites par le biais d'EMT. Et je dois dire que c'est pour moi un grand bonheur de travailler dans cet écosystème avec des EMT qui ont beaucoup de talent pour sourcer de belles missions, mais aussi pour négocier toutes les conditions financières à la place du manager, ce qui est beaucoup plus complexe quand on le fait soi-même en direct. Donc, et là, en l'occurrence, Grant Alexander a vraiment joué le jeu de la solidarité. Sur une mission sur laquelle ils m'ont même dit: Elodie, tu peux gagner un peu plus sur cette mission, ce qui est complètement inhabituel. Voilà, je dis ça parce que très souvent, les managers de transition, on peut se dire que les EMT ont une forte marge, ce qui est le cas, mais en l'occurrence, sur cette mission, j'ai trouvé qu'elle était d'autant plus méritée qu'ils ont été présents. J'ai travaillé avec Alban Azopardi. Il a été présent tout au long de la mission et très, je dirais, force de proposition, d'échange et également dans la communication aussi bien avec moi qu'avec le client. Je trouvais que c'était très agréable. Voilà, la mission a débuté au mois de juin et s'est terminée au mois de janvier, donc récemment. Et je suis arrivée juste avant le défilé du mois de juillet, ce qui était une période très sympathique pour rentrer dans cette mission parce que j'ai été immédiatement mise dans le bain de ce qu'est une maison de couture avec un défilé de couture. Et j'ai pu voir les derniers jours de préparation avec des couturières qui sont dans toutes les pièces et même dans les couloirs et même devant les ascenseurs, tellement en manque de place pour accueillir tous les intérimaires et les personnes qui viennent soutenir l'équipe pour organiser un tel événement. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte sur ce qu'est Jean-Paul Gaultier aujourd'hui. Il aime bien qu'on dise Jean-Paul Gaultier avec le L, donc je vais lui faire plaisir à Jean-Paul. En fait, en 2011, Jean-Paul Gaultier a vendu, a cédé sa maison à Puig. Alors, ça s'écrit Puig, mais ça se dit Puig, qui est un groupe catalan spécialisé dans les parfums, essentiellement, et qui a compris que... il était intéressant, quand on vend du parfum, d'adosser le produit qui est le parfum à une histoire et un storytelling. Donc, ils ont acheté pas mal de maisons de prêt-à-porter. Nina Ricci, notamment, leur appartient, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Et ils ont donc tout le prêt-à-porter. Mais ce qui rapporte le plus, c'est le parfum, il faut le savoir, de par le volume, de par les marges, etc. C'est le cas également pour la maison Jean-Paul Gaultier, d'autant plus que en 2015, est-ce que je l'ai mis ici? Voilà, en 2015, la maison Jean-Paul Gaultier a arrêté le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, en fait, Jean-Paul Gaultier était fait de telle manière que... Jean-Paul est quelqu'un de très perfectionniste et il positionnait son prêt-à-porter de telle sorte qu'il était quand même assez cher. Qui plaisait beaucoup, mais qu'il n'était pas très rentable. Donc, ça s'est arrêté. Je pense qu'il y avait aussi, dans la production, etc., des choses qui n'avaient pas été optimisées. Pour la petite info, je les ai connus il y a 20 ans, puisque je travaillais dans les aéroports, et j'achetais à cette époque des marinières, des parapluies, des bijoux, Jean-Paul Gaultier. Et donc, je connaissais Jean-Paul et son équipe, mais d'un petit peu plus loin. Donc, l'arrêt du prêt-à-porter en 2015. Et à ce moment-là, Jean-Paul Gaultier a décidé de se concentrer sur la haute couture. Une de sa philosophie, en fait, il est très avant-gardiste, comme vous le savez, et l'économie circulaire fait partie de ses valeurs. Et il m'a dit un jour, il y a trop de choses, il y a trop de prêt-à-porter, il y a trop de choix. J'ai plus envie de contribuer à ce gaspillage de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et je préfère me concentrer sur une cible très, très petite et aussi être un peu comme un mécène et faire travailler toutes ces petites mains, tous ces talents. J'aime pas dire les petites mains d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des petites mains, ce sont des grandes mains. Mais surtout, contribuer à faire perdurer des métiers qui sont en voie de disparition. Parce qu'on ne les sollicite pas assez. Moi, je les ai vus, il y a des personnes qui enfilent des perles, il y a des brodeuses, il y a tout un savoir-faire, des personnes qui font des chaussures extraordinaires, etc. Et toutes ces personnes-là sont très heureuses de pouvoir venir à chaque défilé et contribuer. Et heureusement que des personnes comme Jean-Paul Gaultier sont encore là. D'ailleurs, c'est le dernier créateur en vie qui a, on peut dire maintenant qui avait, puisqu'il est parti au mois de janvier, à l'issue de son défilé. Donc, Jean-Paul Gaultier aujourd'hui, c'est de la haute couture, qui représente 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez également des licences. Alors, une licence qui dure depuis très longtemps, parce qu'il y a 20 ans, elle était déjà là, c'est Guy Dejean pour les parapluies. Pour les montres, TWC.
Aussi, c'est un test.
Qui, ça marche, ton test marche.
Très bien. Donc, TWC, qui est donc le licencié des montres, et puis Le Lièvre, qui est notre licencié pour tout ce qui est tissu, également papier peint. Et ces licences représentent 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Simplement, aujourd'hui, Pouch n'a pas vraiment la licence, n'aime pas trop les licences, en fait. Ils m'ont demandé de mettre fin à la plupart des licences, ce qui est assez douloureux parce que pour certains, Jean-Paul Gaultier représentait une grosse partie du chiffre d'affaires. Donc c'est un sujet que j'ai traité, mais j'ai essayé de le traiter avec douceur et de par les relations anciennes entretenues avec Jean-Paul Gaultier, j'ai réussi à convaincre Pouch de le faire sur plusieurs années et non pas de manière brutale. Voilà. Et les parfums, enfin, qui sont le cœur de métier de Pouch, représentent 160 millions, oui, ce sont bien des millions de chiffre d'affaires, et vous voyez qu'il y a une disproportion, en fait, entre ce que rapporte la haute couture, les licences et le parfum. Voilà, mais il faut dire que le parfum, sans l'histoire qui est derrière et sans les défilés de mode, rapporterait sans doute beaucoup moins. Hein, donc, les parfums, dans le cadre de l'organisation de cette... de cette filiale, qui est Jean-Paul Gaultier, reverse des royalties à la maison de couture Jean-Paul Gaultier, qui aujourd'hui, enfin en tout cas quand j'étais en poste, était quand même pratiquement rentable, en partie d'ailleurs grâce à ses royalties.
J'ai une petite question.
Des questions. Mais bien sûr, oui, je t'en prie, Laurent.
Sur donc la stratégie Pouch dans le rachat de Jean-Paul Gaultier, c'est ça, c'est la branche parfum, c'est ça?
Alors oui, mais d'un autre côté, il souhaite que le prêt-à-porter soit rentable. Hein, bon, alors, Jean-Paul Gaultier aujourd'hui n'a pas de prêt-à-porter. La haute couture, clairement, est difficilement rentable. Pour vous donner une idée, Jean-Paul Gaultier a une trentaine de clientes. L'entreprise compte 70 personnes à temps plein. Ce qui paraît, c'est ma surprise, hein, quand on m'a présenté la maison. De par la notoriété, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de monde. Mais dans la réalité, 70 équivalents temps plein. Et en revanche, pendant toutes les périodes de préparation de défilé, énormément d'outsourcing pour organiser le défilé, pour aussi produire, puisque l'unité de production, les ateliers sont fortement renforcés pendant cette période, ces périodes, donc, puisque ces défilés ont lieu 2 fois par an. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Alors, j'avais une deuxième question, toujours dans la suite de ce que tu disais par rapport à ton expérience passée dans les aéroports. Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires côté parfum dans la distribution aéroport? J'ai compris que c'était assez significatif.
Alors, moi, je suis arrivée dans les aéroports à une période particulière. C'était en 99, et c'était au moment de l'abolition du duty-free. Donc, à ce moment-là, les parfums cosmétiques, alcool, tabac, représentaient une part énorme du chiffre d'affaires du service commerce dans les aéroports parce qu'il y avait l'avantage pour l'Europe de bénéficier des tarifs du duty-free. En fait, j'ai rejoint les aéroports à un moment où, justement, on était au défi de trouver des solutions pour que cette étape de passation à l'abolition du duty-free n'occasionne pas une baisse de chiffre d'affaires et une baisse de marge. C'est pour cette raison qu'ils m'ont recruté, parce que étant extérieur au métier, vous allez voir, je vous le dis parce que c'est un peu la philosophie du management de transition, étant extérieur au métier, ils se sont dit, celle-là, elle va sans doute nous aider à réfléchir hors du cadre et peut-être ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on fait aujourd'hui et trouver d'autres manières de faire. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et nous avons réussi à garder une grande partie de la clientèle et avoir finalement très peu de pertes de chiffre d'affaires et de marge au moment de l'annonce. Après, on a encore mieux récupéré. Donc aujourd'hui, j'aurais du mal à te répondre, Laurent, parce que je ne suis plus dans le métier aéroportuaire et que les aéroports se sont fortement développés dans tout ce qui est commerce, avec une offre qui est beaucoup plus large que celle qui était avant, et notamment une offre prêt à porter, mais aussi une offre cadeau, de l'alimentaire encore plus qu'avant, et les boutiques sont vraiment de très très belles boutiques. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais les boutiques en aéroport, elles étaient totalement ringardes, moches, et moi, quand je suis arrivée, c'était au moment de l'ouverture du terminal 2F à Paris, et c'était un terminal très très moderne, les commerces étaient modernes, etc., et c'était la nouvelle ère du duty-free. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la part des parfums cosmétiques doit représenter au moins 50% du chiffre d'affaires. Mais c'est une estimation.
Merci.
Élodie, j'ai une question.
Je t'en prie, Jérôme.
Alors attends, je suis peut-être en muet, non je suis...
Non, 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 on t'entend bien.
J'ai une question. Tu as dit 30 clientes pour la partie haute couture.
Oui, oui, j'étais étonnée qu'il n'y ait pas de réaction. Oui, alors, 30 clientes, mais est-ce que je n'ai pas précisé, Jérôme, c'est le panier moyen?
Oui, ben oui, parce qu'en fait, 30 clientes à 4 millions, ça fait 130 000 par tête.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Le panier moyen est de 130 000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez la jolie robe que vous voyez là, elle doit coûter la bagatelle de 90 000 euros à peu près. Donc, c'est une clientèle… Il y a des Françaises hein, dans cette clientèle, mais il y a quand même beaucoup d'étrangères, aussi bien des personnes du Golfe que des Asiatiques. On a même un homme suédois qui s'habille en femme et qui achète de la haute couture chez Jean-Paul Gaultier. Et parfois, même des femmes qui sont assez classiques dans leur vie. Pour la petite anecdote, il y en a même une, elle arrivait le lendemain des défilés à 10h. Elle allait aux toilettes entre 10h et 10h05. Ensuite, à 10h15, elle prenait son café. Et puis, elle venait au salon et elle achetait une robe Jean-Paul Gaultier à chaque collection. Et justement, sa vie était tellement vide de fantaisie dans son organisation qu'elle s'éclatait sur des robes un peu délirantes. Et c'était son grain de folie. Et parfois, elle ne les portait pas. Elle achetait des robes pures, c'est-à-dire des robes qui faisaient partie du défilé. Elle avait la chance d'être très fine et de pouvoir les porter. Mais elle ne voulait pas des robes retouchées ou des robes refaites. Voilà. Or, beaucoup des clientes de Jean-Paul Gaultier voient une robe du défilé, mais bien sûr, ce ne sont pas des tailles 36, 1m80 de taille. Et elles demandent à ce que la robe soit adaptée à leur silhouette. Et c'est une des très grandes forces de la haute couture. Il y en a une belle, et je ne donnerai pas son nom, ce ne serait pas sympa pour elle, mais elle avait une épaule plus haute que l'autre, et le fait de s'habiller en haute couture lui permettait d'avoir de l'élégance, de rétablir l'équilibre, de se sentir bien, de se sentir belle, avec une robe qui était vraiment faite pour elle et dont elle rêvait. Hein. Et au-delà de la robe qu'on achète, bien sûr, dans le prix est inclus tout le service. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, on fait des robes de mariée chez Jean-Paul Gaultier, qui sont magnifiques, mais on a eu des déboires parce que une robe que la première d'atelier estime à 400 heures de travail, hein, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une robe de mariée, 400 heures, et bien finalement, on finissait à 2000 heures. Alors, vous imaginez la marge et la perte de marge, c'était catastrophique. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'essayages, et puis la mariée peut être satisfaite de la robe, et puis tout d'un coup, il y a le papa qui rentre dans le jeu et qui voit la robe pendant l'essayage, qui dit « Bah non, mais moi, je ne veux pas du tout qu'elle soit comme ça, etc. » Et les couturières sont obligées de totalement défaire la robe et de la refaire, et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc, c'est un service qui est plein d'aléas. Ensuite, les équipes et la première d'atelier, quand je dis les équipes, en général, c'est le commercial qui connaît parfaitement les clientes dans leur plus grande intimité, se déplacent avec la première d'atelier et font plusieurs essayages chez les clients. Donc, parfois, elles viennent, mais très souvent, il y a un aller-retour dans leur pays pour faire des essayages. Alors, tout cela est en train d'évoluer, forcément, avec ce qui se passe en ce moment. Je sais que les ventes continuent à très bien se passer chez Jean-Paul Gaultier, mais beaucoup d'essayages se font en webinar, en tout cas pour les premiers tests. Ça complique un peu les choses, mais comme quoi, même la haute couture est capable de se réinventer en cette période de crise.
Et donc, j'avais une question sur ces 30 clientes-là. La pyramide des âges, c'est quoi environ ? C'est des gens qui...
Mais il y a de tous les âges. Et ça, c'est une excellente question parce que finalement, on a des jeunes mariés, on a une jeune femme de 16 ans, on a même eu une maman qui habillait ses petites filles en haute couture pour des événements particuliers. Et la plus âgée, à 93 ans, si je me souviens bien, c'est une duchesse espagnole. Et chaque fois, quand on se dit, mon Dieu, les équipes, elles ont un peu d'humour, elles se disent, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps entre le moment de l'essayage, de la commande et la livraison, parce qu'on ne sait pas trop si elle sera toujours en vie. Mais c'est un peu la blague à l'atelier, mais c'est une dame en très bonne santé et qui s'habille très régulièrement et avec des tenues assez affriolantes, hein, des décolletés. La dernière fois qu'on est allé la voir, c'était plus bas le décolleté, quoi. Elle voulait être très féminine. Donc c'est voilà pour l'âge des clientes.
Merci.
Elle pouvait poser des questions. C'est vrai que moi-même j'ai été complètement charmée par cet environnement, étonnée du business model, surprise à tout niveau. Aussi de la culture de l'entreprise, et on y reviendra plus tard. Et je dois dire que de toutes les missions que j'ai faites, c'est sans doute celle qui m'a le plus marquée sur le plan émotionnel, je dirais, hein, au-delà de l'intérêt des enjeux de cette mission.
Et une robe de mariée, juste pour la petite anecdote, là, où la personne passe 2000 heures, c'est combien ?
Eh bien, malheureusement pour la maison, quand on fait un devis, on fait un devis. Donc, si on dit que cette robe coûtera 120 000 euros, on peut estimer que c'est un montant très élevé. Mais finalement, si on passe de 400 heures, parce qu'en donnant cette estimation, on fixe le prix, hein, mm-hmm, en fonction de cette estimation du nombre d'heures, et qu'on finit à 2000 heures, il est bien évident que cette robe... On n'a aucune marge sur cette robe, on perd de l'argent. Donc, ça fait partie des choses que j'ai mises en place lorsque j'étais en mission, c'est qu'il n'y avait aucun pilotage de la production. En fait, les équipes, les ateliers subissaient ces essayages et subissaient aussi le fait que parfois, si c'est une couturière plutôt qu'une autre qui fait la robe, on n'a pas le même nombre d'heures parce que l'une sera plus efficace sur certains travaux, maîtrisera une technique mieux que l'autre, etc. Néanmoins, on ne peut pas toujours faire travailler la même sur la technique parce que si un jour elle disparaît ou qu'elle quitte la maison, etc., c'est une sorte de compagnonnage. Il faut que plusieurs personnes maîtrisent ce savoir-faire. Et du coup, il faut piloter la production, il faut savoir et ne pas subir. Et au fil de l'eau, toutes les semaines, j'ai suggéré une réunion qui rassemble les parties prenantes aussi bien au studio, donc créatif, qu'à l'atelier, qui puissent piloter et dire, bon ben voilà, au bout d'une semaine, on avait dit qu'on devait avoir, 80 heures sur ce vêtement, on en est déjà à 40, alors qu'on doit livrer dans 3 semaines, etc. Et du coup, on peut changer l'organisation, on peut peut-être mettre une personne plus rapide, etc. Et on est passé d'une mentalité de... On fait comme ça et on voit ce qui se passe, ce qui est quand même la mentalité artistique de cette maison, on met en place des process, on ne subit pas, on pilote et on essaie d'obtenir une meilleure rentabilité. Donc, ça fait partie des mesures que j'ai mises en place. Au début, la première d'atelier m'a dit « Oh, mais non, on a autre chose à faire qu'être en réunion, etc. » Je lui ai dit « Écoute, Jacqueline, si tu veux bien, tes équipes le veulent et on va essayer. » Et puis, si on voit qu'on perd notre temps, bien évidemment, on ne le fera pas. Et à la fin, elle m'a dit « Tu sais, Elodie, j'imaginais pas le bénéfice qu'on pourrait tirer de ces réunions de pilotage. En plus, on échange sur des sujets qu'on n'avait pas l'habitude de traiter et on a évité beaucoup d'erreurs. Donc, comme quoi, je dirais, il faut faire fonctionner l'intelligence collective en mission, de manière à pouvoir faire évoluer. Or, moi, je ne connaissais pas le business model, donc j'arrivais avec mon regard candide. Et c'est grâce à la bonne relation établie avec les équipes, rapidement, qu'on a pu avoir cet échange et qu'elles ont aussi eu envie de contribuer à améliorer les choses. Hein, parce qu'on est quand même toujours tenté de rester dans son confort. Voilà. Le manager de transition, il est aussi là pour challenger les équipes et les faire sortir de leur zone de confort dans l'intérêt, dans le, bien sûr, du projet et de la rentabilité ou de d'autres choses. Hein. Vous verrez, cette mission a été vraiment pleine de facettes différentes.
J'avais une petite question.
Oui.
Bonjour Laurent.
Vas-y, bonjour Laurent.
On doit avoir un point commun parce que j'ai gagné l'appel d'offres du 2F en restauration en 98.
Ah, donc, c'est génial.
L'ouverture des bars et restaurants chez Alliance.
Ah oui.
Donc voilà, bon, oui, c'est ainsi. Ce qui m'intéresse, c'est le comment tu t'es imposé dans un secteur dans lequel effectivement. Que je connais aussi par ailleurs, dans lequel il y a beaucoup de codes, il y a vraiment un langage particulier, enfin, la façon dont tu le décris, c'est bien un monde à part, et comment tu es arrivé à t'imposer dans un monde, justement, où tu n'étais pas stické, en tout cas, mode ou luxe, comme une histoire, parce que toutes ces maisons ont une histoire. Et,
bien sûr. Alors, j'avais quelques atouts cachés. Le premier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà travaillé avec la maison Jean-Paul Gaultier en tant que cliente. Hein, donc, j'y avais mis les pieds. En plus, je me suis fait des amis à cette époque-là avec qui j'avais gardé des contacts. Et du coup, lorsque j'ai su que j'allais avoir, en tout cas, j'avançais sur cette mission, je me suis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon réseau et je leur ai dit, dis donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur... J'ai eu notamment des pistes et des informations en interne qui m'ont permis de gagner énormément de temps et gagner la confiance de certaines personnes rapidement. Notamment, mon amie qui était à l'époque donc chez Jean-Paul Gaultier m'a rappelé le prénom de la personne qui était à l'accueil, qui entre-temps, en 20 ans, avait évolué, était toujours dans la maison et était secrétaire du CSE. Accessoirement. Donc, quand je suis arrivée, je lui dis « Raymond, est-ce que tu te souviens de moi ?» Oh, Raymond m'a sauté dans les bras. Donc, je peux vous dire que j'ai gagné des points. Et puis, finalement, le monde du luxe n'est pas tout à fait étranger non plus en expérience parce que j'ai travaillé pour différentes marques qui n'étaient pas de la haute couture, mais du luxe. Et enfin, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans le processus de recrutement, d'ailleurs, vous voyez là sur l'organigramme, là-haut, je suis à côté de Jean-Paul, On était deux à la fin en shortlist et Pooch a dit c'est Jean-Paul qui va choisir. Alors évidemment, je peux vous dire que la veille de rencontrer Jean-Paul, en plus je suis totalement fan, donc j'ai pas dormi, j'étais assez nerveuse. Je suis arrivée avec un trac de dingue et au moment où on s'est vu et on s'est serré la main, on a su qu'on voulait travailler ensemble et ça c'était magique. Donc on a parlé pendant 2 heures, il m'a raconté toute sa carrière, enfin bref, et ça a été le début d'une amitié. Et je dois dire que le fait que Jean-Paul m'adoube et les équipes m'ont vu, en fait, les équipes, le DRH et au 5e étage, là où s'est passé l'entretien, quand Jean-Paul n'aime pas quelqu'un, ça dure 5 minutes. Et là, il avait des rendez-vous une demi-heure après et l'entretien a duré 2 heures. Et c'est même moi qui ai mis fin à cet entretien parce que j'avais un déjeuner avec... Marion, je crois, hein, qui est là aujourd'hui. Et donc, j'ai dit à un moment donné à Jean-Paul, je suis désolée, Jean-Paul, si vous permettez, je donne un coup de fil à la personne à qui je dois déjeuner parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle si longtemps. Et il s'est excusé. Je trouvais que c'était très sympa. Voilà, ça a été... En fait, je dis ça pourquoi ? Parce que quand on travaille pour une maison de couture avec un couturier qui a une telle aura, si on n'est pas adoubé par cette personne, c'est très difficile. Et ensuite... l'équilibre de la relation entre le directeur général, donc moi en l'occurrence, et le directeur artistique, est un binôme qui est clé. Il faut que les deux, chacun dans son métier, puissent travailler en très bonne intelligence. Et plus que la bonne intelligence, je dirais que nous, on se racontait plein de choses, on riait. Je lui apportais des tisanes au gingembre quand il avait mal à la gorge. Je pense qu'il y avait une relation personnelle qui s'est établie rapidement et qui a fait que finalement, les personnes l'observaient. À tel point que mon assistante un jour m'a dit « Mais Jean-Paul te fait la bise, mais il fait rarement la bise, c'est qu'il t'aime beaucoup. » Et ces petits signes-là ont fait qu'immédiatement, je pense que je me suis très rapidement intégrée et que les équipes m'ont vue, en tout cas comme quelqu'un qui était crédible.
Bonjour Élodie, ici Sébastien Muscat.
Oui, bonjour Sébastien.
Merci pour ce partage. Peut-être est-ce que tu y reviendras un petit peu plus tard dans ton témoignage, mais je souhaiterais que tu élabores sur la relation avec Jean-Paul, puisque là tu nous as parlé de l'aspect, je dirais, émotionnel, le coup de foudre, le côté adoubé. Pour autant, il y avait sans doute d'autres aspects de cette relation, j'allais dire peut-être plus, enfin qui fâchent un peu plus, qui
oui,
sont un peu plus factuels. Alors je ne sais pas si tu as prévu d'y revenir, mais ça m'intéresse de savoir comment on explicite le quoi et le fonctionnement du tandem.
Alors, c'est très important ce que tu dis, et c'est marrant parce que je n'avais pas l'intention d'en parler, parce que je dirais qu'au-delà des paillettes, je vais plutôt à l'opérationnel, mais puisque le sujet vous intéresse, je vais vous en parler. La relation avec Jean-Paul, oui, il y a eu, bien sûr, je dirais le honeymoon au départ, et très rapidement, bien sûr, Jean-Paul savait que j'étais recrutée par Pouch. Et je ne lui cachais pas à Jean-Paul que Pouch me mettait énormément la pression sur notamment le budget. Budget est un terme que Jean-Paul ne connaît pas, c'est simple, c'est un électron libre, c'est un créatif, il aime utiliser de belles matières, il aime faire des shows qui sont grandioses, qui coûtent beaucoup d'argent. Pouch m'a tout de suite donné ma feuille de route, il m'a dit, Elodie, une de tes missions quand même, c'est de faire en sorte qu'il ne dépasse pas les bornes, parce qu'on n'arrive pas à le canaliser et personne n'arrive à lui faire entendre raison. Quand il vient, il part, il claque la porte. Enfin, c'est l'enfant terrible. L'enfant terrible sous tous ses meilleurs et ses pires aspects, parce qu'il est créatif, mais d'un autre côté, avoir une conversation avec Jean-Paul sur un sujet ou sur des choses qui sont, je dirais, business, c'est compliqué parce qu'il part sur des tangentes et petit à petit, il faut arriver à le ramener. Donc, je fonctionnais de la manière suivante. Déjà, j'ai eu les bons conseils de sa cousine Evelyne, que j'ai rencontrée et avec qui j'ai tissé un lien amical et qui m'a dit, Elodie, je vais te donner 2-3 petites clés pour fonctionner harmonieusement avec Jean-Paul. Déjà, quand tu as des choses à lui dire, mieux vaut déjeuner avec lui et organise un déjeuner par mois. Et c'était des moments très agréables. Et on allait soit au restaurant du coin où on avait la chance d'avoir une cuisine et un chef qui cuisinait pour nous deux en tête à tête, c'était chouette. Et sur les conseils de sa cousine, en fait, je me préparais ma liste de Noël avec toutes les questions et les points clés à aborder avec Jean-Paul, mais je le laissais longuement parler de la pluie, du beau temps, de tout ce qui l'intéressait, du défilé, de l'art, de peu importe. Et arrivé au moment du dessert, généralement, il était plus détendu. Et là, je lui disais toujours un truc du genre oh, Jean-Paul, j'ai un sujet qui va peut-être vous fâcher. Donc, je le préparais. Il me dit oh non, Elodie, pas ça. Alors, je dis mais allez, un petit coup, pas longtemps, mais allez, vous m'accordez 5 minutes de sujet qui fâche. Et ça donnait notre private joke. Et là, je lui disais bon, je ne peux pas vous cacher que, effectivement, je suis un peu inquiète de ce qui se passe. Et sur les budgets, dites-moi où vous allez, combien il va y avoir de passages. Je dis, moi, je ne vais pas vous en empêcher de faire ce beau défilé, c'est votre dernier défilé, il faut que vous vous amusiez. Mais sachez quand même que Pouch, derrière, il me cravache et que le soir, je rentre et j'ai très mal au dos. Et en fait, comme Jean-Paul est quelqu'un d'artiste et de visuel, utiliser des paraboles, utiliser des images, ça, il comprend. Et donc, j'évitais même certains mots barbelés et je préférais le travailler avec ce qui génère de l'émotion, puisque c'est un homme qui fonctionne à 100% à l'émotionnel, à l'affectif. Et puis parfois, il lui arrivait même d'arriver en trompe dans mon bureau. J'étais même en ligne une fois et je n'ai même pas eu le temps de raccrocher. La personne que j'ai au bout du fil a entendu la conversation. Et il voulait me mettre en garde contre un truc ou il était inquiet de quelque chose. À tel point qu'un jour, je lui ai dit, écoutez Jean-Paul, si vous vous inquiétez, venez, on va aller voir ce qui se passe à l'atelier. Il s'inquiétait en fait de voir que les ouvrières étaient pratiquement toutes en train de travailler pour les clientes et pas suffisamment sur la collection du défilé. Mais il n'allait jamais à son atelier, jamais. Hein, ça va vous surprendre. Le studio créatif de Jean-Paul Gaultier se trouve au 7e étage de son hôtel particulier. Les bureaux au 5e et au 6e, entre les deux, c'est tout l'atelier, tout un étage avec les 50 ou 70 personnes qui travaillent à l'atelier. Ben, vous n'imaginez pas que Jean-Paul ne descendait jamais sur le terrain, en fait. Chose qu'on ne peut pas imaginer dans une usine, qu'on ne peut pas imaginer, mais j'ai rapidement compris que la relation personnelle avec ses salariés lui posait problème, en fait. Il a besoin d'être dans sa bulle. Et faire le tour des ateliers est pour lui un effort. Or, quand il est venu dans mon bureau, je me suis dit, il faut que je trouve. J'essayais depuis des jours de trouver une excuse pour le faire monter à l'atelier ou descendre à l'atelier, selon l'étage où il est. Et j'ai trouvé l'excuse rêvée quand il s'est inquiété. Je lui ai dit, mais Jean-Paul, le seul moyen de savoir, c'est d'aller faire le tour de l'atelier. Et à la fin, il a dit à quelqu'un qui me l'a répété, quand même, hein, elle a réussi à me faire aller à l'atelier. Et ça m'a fait sourire parce que je trouvais que c'était une chose indispensable
pour la bonne conduite de l'organisation de ce défilé qui était trois fois plus important qu'un défilé normal, avec, pour vous donner un ordre d'idée, au lieu d'avoir 70 passages, c'est-à-dire 70 mannequins qui passent, il y en a eu 150, donc 250. Et 150 mannequins, mais il y a le repassé plusieurs fois. Et trois ateliers qui travaillaient en parallèle, alors que normalement on n'en a qu'un. Donc ça nécessitait une coordination dont moi, techniquement, je n'étais pas capable. En revanche, ce que je savais faire, c'était faire en sorte que les personnes communiquent, que les premières d'ateliers qui ne s'aimaient pas trop les unes les autres puissent travailler ensemble et que le défilé s'organise dans la joie et la bonne humeur, ce qui a été le cas. Voilà, ma réponse était peut-être un petit peu longue.
Élodie, une petite question.
Oui, Marion.
Depuis 5 minutes, nous avons l'organigramme.
Oui, oui, oui. Vous avez le temps de le regarder en détail, c'est ça.
Je te rassure.
Non, non, il n'y a pas de souci.
J'ai fait tout mon parcours dans le domaine de la mode et notamment du luxe. Mm-hmm. Et donc, ce type d'organigramme ne devrait absolument pas me surprendre. En revanche, il me sidère.
Alors vas-y Marion, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'inquiète
encore plus sidérer des gens qui ne viennent pas de cet univers. Tu fais référence à un effectif de 66 personnes, oui. Sur lequel le commercial représente 2 personnes. Waouh.
Mais maintenant, 30 clientes Marion, 30 clientes.
Mais, d'accord. Mais oui, si c'est le commercial direct, exclusivement, oui, oui, cliente, mais pour moi, le commercial, ça va au-delà de ça. Ça peut être dans la gestion des licences.
Non. En fait, je comprends ta question, Marion, et tu as tout à fait raison de l'adresser. Le commercial, chez Jean-Paul Gaultier, est la personne qui… en fait, c'est la seule personne qui connaisse les clientes. Et là aussi, je trouve qu'il y a une faille dans le business model, parce que… si le commercial part de chez Jean-Paul Gaultier, et c'est ce qui est arrivé, hein, il est venu d'une autre maison pour travailler chez Jean-Paul Gaultier, ben, il a emmené avec lui la plupart de ses clientes haute couture, puisqu'en fait, sa plus grande valeur ajoutée, c'est son carnet d'adresses et sa qualité de savoir communiquer avec l'atelier, traduire les désirs complètement délirants des clientes en choses qui peuvent se concrétiser. Et effectivement, le service commercial est composé de 2 personnes, qui est Franck, donc qui est cet homme qui voyage avec la première d'atelier, et Marie, qui est son assistante et qui, elle, ne voyage pas ou pas autant que lui, et gère les flux entrants. En fait, c'est les rouages derrière la montre. Voilà.
Ok, mais alors, je reprends un autre exemple. On a 8 personnes au service généraux, une personne à la finance.
Oui, parce que la finance est un service partagé pooch et que du coup, c'est la, on a, en fait, on a même, c'est, finance, c'est un contrôleur de gestion, Pauline, et Juana, c'est, elle est service partagé finance pour les autres maisons. En fait, elle travaille chez pooch, elle n'est pas dans nos locaux et elle gère aussi bien Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier.
D'accord.
Donc voilà, c'est particulier, hein, effectivement. Ce que je trouve, moi, ce qui m'a surprise, au-delà de ce que tu dis, Marion, c'est le studio, par exemple, aussi, un certain nombre de graphistes, et également le service presse, qui est assez important, parce que communication presse, de par la notoriété de Jean-Paul Gaultier, on est obligé d'avoir un service qui lui est attaché, et on ne peut pas l'outsourcer. Et une des grandes difficultés, d'ailleurs, était la fluidité de la communication entre le service communication presse de Jean-Paul Gaultier et celui des parfums. Alors qu'on parle de la même marque, on a une grande, je dirais, ambiguïté, déjà parce que le client final en haute couture n'est pas le même que le client final du parfum. Et par conséquent, les égéries ne sont pas exactement du même calibre, je dirais, sans porter de jugement sur l'un ou sur l'autre. Pour les parfums, ils vont utiliser, par exemple, beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses très sexy, assez jeunes, etc. Pour la haute couture, les égéries sont des femmes, en général, très, très élégantes, qui font rêver une clientèle d'élite. Donc, quand on communique sur les réseaux sociaux, il y a eu souvent des frictions sur « Ah non, mais on ne peut pas vos influenceuses… » Alors, il disait « vos influenceuses de merde », entre guillemets, je reprends l'expression textuelle utilisée par les équipes de Jean-Paul Gaultier. Pour eux, c'était extrêmement choquant de voir des posts sur les réseaux sociaux avec des filles assez dénudées, à Verbier, dans la neige, par exemple, qui ne correspondaient pas à l'image du luxe.
Donc, pour parler de l'organigramme, effectivement, vous voyez, la majorité des talents sont à l'atelier. Or, le premier rendez-vous que j'ai eu en interne était avec le CSE. Et j'avais lu les PV, je m'étais bien préparée en amont de la mission avant leur rencontre. Et je leur ai soulevé tout de suite ma surprise de voir que le CSE n'était pas du tout, l'atelier n'était pas du tout représenté au sein du CSE. Parce que l'atelier a une telle force de présence que les personnes du CSE ont exclu les filles de l'atelier. Il y a en interne, en fait, plusieurs cultures. Pour répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, vous avez le studio avec des artistes qui sont très, pas très artistes, je ne sais pas comment les décrire autrement, et l'atelier qui ont plutôt une mentalité ouvrière, parce que ce sont des personnes qui travaillent dans le détail et dans la précision. Et ce ne sont pas des artistes, ce sont des exécutants. Donc en fait, en culture, en termes de culture d'entreprise, déjà, rien que sur ces deux services, vous avez deux mentalités, je dirais, qui s'opposent pratiquement, et en tout cas, ils ne parlent pas la même langue. Donc mon rôle a aussi été, et dans cette mission, de créer de la transversalité en interne avec des équipes qui ne se parlaient pas, qui ne descendaient pas d'un étage à un autre, ni même pour se dire bonjour, qui respectaient le travail des uns des autres, mais qui avaient tendance à ne pas se connaître. Donc j'ai organisé des journées Vie ma vie où les gens du studio allaient travailler aux côtés des ouvrières, de même les personnes des services généraux, etc., de manière à ce que chacun puisse comprendre les contraintes des uns des autres, et puis aussi admirer le travail qui est fait, et pas simplement en voir les contraintes qu'elles apportent quand on les empêche de créer, ou voilà. Donc j'ai trouvé cette facette, en fait, de ma mission, qui était la médiation proprement dite en interne, très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te choquent ou qui vous choquent dans cet organigramme?
Oui, bonjour Élodie, merci de ce partage, c'est Bruno. Cet organigramme fait apparaître une armée très hiérarchisée et très, très bien organisée, notamment effectivement sur la partie atelier, du deuxième classe jusqu'au colonel d'infanterie.
C'est ça, exactement.
Et pour autant, dans la première partie que tu as présentée, on a le sentiment d'une organisation qui est en autogouvernance, puisque derrière, j'imagine que l'implication de ces ouvrières, de l'atelier, de l'ensemble de l'entreprise, dans le cadre d'un événement comme un défilé, nécessite une surimplication, animée par une passion qui fait que chacun, très expert dans son domaine, s'autogouverne. Me trompe-je ou c'est le...
Ouais, alors, tu as tout à fait raison de mentionner ça. Ça a coupé, ça a juste coupé deux secondes. Donc, effectivement, alors ce que tu disais, si je comprends bien, puisqu'on a été un petit peu coupé, c'est qu'il y a une différence de point de vue, c'est ça?
J'ai un problème de connexion, pardon. Oui, le point, c'était de dire qu'effectivement, on a le sentiment d'une organisation très hiérarchisée, on le voit bien sur cet organigramme, et que pour autant, il semble que ce soit une organisation, l'autogouvernance.
Oui, alors effectivement, oui, j'ai très bien entendu cette fois-ci, effectivement. Merci. Alors, déjà, il y a plusieurs facteurs. Quand je suis arrivée, est-ce que tu m'entends, Bruno? Vous m'entendez?
Oui.
Vous m'entendez tous?
Oui, on t'entend. Bruno, on a bien compris aussi des questions.
En fait, quand je suis arrivée, il y avait une vacance de la direction générale depuis plusieurs semaines. La personne qui dirigeait la maison était partie et les équipes étaient perturbées par ce manque de gouvernance, je dirais, de direction générale, et un peu en déshérence et très stressée par ça. En revanche, chacun connaissait très bien son métier, de telle manière que l'organisation du défilé ne s'en trouvait pas mise à mal. Et je suis arrivée, à ma grande surprise, tout était très bien rodé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Finalement, tout marche. Et dans la réalité, ce n'est pas le cas du tout. Parce que quand on creuse un petit peu, on a Jean-Paul Gaultier qui est tout sauf un manager. Alors, tout le monde l'adore et le respecte. Mais en revanche, déjà, il terrorise tout le monde parce qu'il a de telles sautes de parfois de colère, etc., que personne n'aurait osé le contredire, sauf moi parfois. mais avec mon savoir-faire et puis parce que j'étais hiérarchiquement, à un niveau qui pouvait le faire. Donc, on assiste à, en fait, effectivement, une organisation extrêmement pyramidale. Et Jean-Paul Gaultier peut leur demander n'importe quoi, ils ne savent pas lui dire non. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que d'un côté c'est très bien parce qu'il peut exprimer lui son génie créatif, d'un autre côté c'est pas comme ça qu'on gouverne et qu'on fait tourner une entreprise. Et à un moment donné il faut mettre un peu de l'ordre dans tout ça, et ça a été mon rôle, et c'est le rôle du DG dans cette relation harmonieuse qui doit tisser avec le directeur artistique. Donc oui, moi aussi j'étais très surprise de ce côté hiérarchique, à tel point que les équipes n'osaient pas venir au cinquième étage. Par exemple, l'atelier ne descendait pas au cinquième étage où se trouve l'administratif, encore moins dans le bureau de la direction générale. Et en très, très peu de temps, j'ai réussi à créer une telle rupture managériale que les gens sont venus dans le bureau. Déjà, je les ai vus tous un par un, j'ai plaisanté. Le jour de mon arrivée, j'ai annoncé le jour de mon départ. Déjà, c'était un mot d'humour qui a créé la confiance. Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, les DG, ils n'arrêtent pas de tourner, au moins celle-là, elle nous dit qu'elle part le jour où elle arrive, ça nous rafraîchit. Et petit à petit, je dirais que j'ai un peu mis de la joie et du soleil dans une équipe qui était extrêmement stressée et très inquiète de son devenir. Parce que pas de direction générale était interprétée comme on va arrêter la haute couture. Également, tout le long de ma mission, il y a eu, je dirais, l'éléphant dans la pièce, quelque chose que tout le monde voyait ou tout au moins devinait, mais dont personne ne parlait, c'était le départ imminent de Jean-Paul Gaultier. Bien entendu, moi je le savais dès le départ, Jean-Paul m'en avait parlé, mais on ne pouvait pas le communiquer en interne parce qu'on ne voulait pas de fuite, et compte tenu de l'effet médiatique que ça pouvait produire, etc., on voulait être sûr d'être prêt pour faire cette annonce. Et ma recommandation a été de la faire juste avant le défilé, de manière à ce qu'on ne perturbe pas les équipes dans la préparation du défilé, et puis aussi, surtout, qu'on prépare l'avenir et qu'on ait mon successeur, de manière à ce qu'il y ait une continuité dans la gouvernance, et pas on vous annonce qu'il s'en va, mais on ne vous dit pas comment ça va se passer après. Hein, donc, il y a eu toute cette période où finalement, ils savaient que je savais, mais ils savaient que je ne pouvais pas leur dire. Et pour ne pas les prendre pour des idiots et pour créer la confiance, je leur ai dit à un moment donné qu'il y avait des choses que je savais, mais je leur ai expliqué pourquoi je ne leur disais pas. Et c'était une certaine manière de leur dire, vous le savez, mais comme moi, vous ne devez pas le dire. Mais comme je ne leur avais pas dit, vous ne pouvez pas le répéter. Hein, donc c'était une sorte de jeu, mais qui n'était pas du tout un jeu de dupes, parce que j'ai joué la transparence avec eux, et sur beaucoup d'autres sujets, alors que jamais on leur avait communiqué aussi directement. Moi, j'allais les voir, j'allais étage par étage pour leur parler d'un sujet, pour créer le lien et surtout tenir mes promesses. Chaque fois je disais quelque chose, je délivrais ensuite. Donc voilà comment je trouve que, sans casser la hiérarchie, parce que je ne pouvais pas décider du jour au lendemain qu'il n'y aurait pas une première d'atelier, etc., c'était pas possible et puis c'était pas l'objet, mais créer du lien avec les personnes, aller les voir. Moi, j'allais presque tous les jours à l'atelier, déjà parce que j'étais passionnée par leur métier, et j'estimais tous les jours, je me pinçais, je vous jure, j'estimais la chance que j'avais de pouvoir être dans cet environnement et les voir travailler. Et je regardais, je leur parlais, je les connaissais toutes par leur prénom. Alors, cet organigramme que vous voyez, je l'ai eu avant mon arrivée en mission. Et cet organigramme, je l'ai appris par cœur. Et par chance, comme les photos étaient assez lisibles, très rapidement, quand je croisais quelqu'un dans les couloirs, je l'appelais par son prénom. Quand j'allais à l'atelier, j'avais demandé à mon assistante qu'elle me fasse un plan de l'atelier avec le nom des personnes à leur poste. Comme ça, j'avais encore plus de facilité à les appeler par leur prénom. Et elles sont tombées de leur chaise littéralement parce que la dernière DG qui était là pendant 10 ans ne les connaissait pas par leur prénom. Donc, c'est en management de transition ce qu'on appelle créer une rupture managériale positive. Et pour moi, les ruptures, je vous dis ça parce qu'on est dans une période de rupture avec cette crise, moi, je suis convaincue que la rupture peut avoir beaucoup de positifs parce qu'elle génère, elle peut générer un changement de direction. Donc, une rupture managériale, c'est positif. Donc, quand vous arrivez en mission, je dis ça à mes camarades managers de transition, je suis sûre que vous le faites aussi, vous créez des ruptures qui vous permettent d'amorcer un changement. C'est un petit peu comme un athlète qui fait du saut en hauteur. Ben, il va d'abord courir très vite, s'arrêter, et puis hop, l'inertie va partir dans une autre direction. Il va sauter très haut. Ben, c'est un peu la même chose. Sur cette mission, en tout cas, j'ai créé une très forte rupture managériale
qui a, à mon bénéfice, puisque j'avais la chance de succéder à une personne qui était plus financière qu'orientée vers la relation humaine, m'a permis de tisser un lien très fort avec des personnes sceptiques, soupolées. Ça passe ou ça casse hein, dans une relation comme ça.
Une autre, si tu me permets.
Oui, oui, je t'en prie.
Question au sujet de l'organisation. Là, tu nous as présenté l'organisation interne et la relation avec Jean-Paul. Tu as évoqué tout à l'heure quelqu'un qui tenait le martinet, je crois, Putsch.
Ah ouais.
Donc, j'aimerais savoir, j'ai deux questions en fait sur cette organisation. Oui. Premièrement, quel rôle pour Putsch dans cette organisation en dehors de tenir le martinet? Et ma deuxième question, y a-t-il également d'autres parties prenantes de la marche de cette activité Jean-Paul Gaultier?
Alors, je te remercie de ta question, Sébastien. En fait, moi, j'ai été recrutée par Putsch, avec une feuille de route Putsch. Or, Putsch est un gros mot chez Jean-Paul Gaultier. Hein, si on arrive, entre guillemets, putschérisé, ça ne se passe pas bien. Donc, j'ai eu, le challenge, le défi de travailler avec deux cultures d'entreprise très différentes. Mais je vais y revenir, hein, si tu veux bien. Je reviendrai puisque finalement, cette mission comportait une médiation interne que je vous ai décrite, qui était en fait de casser les silos dans cette entreprise. Mais par ailleurs, il y a eu une mission forte de médiation entre Jean-Paul Gaultier et Putsch qui ne s'entendaient pas bien. Ils ne s'entendent pas bien. Et mon rôle a aussi été de créer du lien entre les deux et de pouvoir en fait réinterpréter des intentions qui sont assez bien alignées, mais exprimées de manière totalement différente. Je vous donne un exemple très concret. Chez Putsch, la population est très jeune. Ce sont des jeunes gens de marketing, très rapides, très digitaux. Alors que chez Jean-Paul Gaultier, c'est un savoir-faire qui se passe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé, c'est pas par hasard, le terme de compagnonnage. Donc une population qui est quand même beaucoup plus âgée, avec beaucoup d'ancienneté. Certaines personnes, je vous l'ai dit, hein, la personne que j'ai retrouvée 20 ans plus tard n'était pas isolée. Le plus ancien avait 36 ans de maison, il n'avait jamais que travaillé pour Jean-Paul Gaultier, c'est le modéliste Frédéric Langlais, infographiste. Or c'est pas le cas chez Putsch où ça tourne et 80% de l'effectif tourne au bout de 2 ans. Donc rien que là déjà on a une culture différente, et moi j'avais l'impression en naviguant, parce que j'étais très souvent chez Putsch et encore plus souvent chez Jean-Paul Gaultier, vous savez, j'étais comme chez Matrix, je change mon chip derrière et je parlais différemment aux uns et aux autres, hein. Donc oui, il y a un vrai sujet, mais j'en parlerai plus tard sur cette médiation entre Putsch et Jean-Paul Gaultier, la maison, mais aussi la personne de Jean-Paul Gaultier, les deux. Donc voilà.
D'autres parties prenantes en dehors de...
Non, en fait, chez Putsch, j'avais un interlocuteur qui était le VP mode, qui gérait à la fois Jean-Paul Gaultier et Paco Rabanne et Nina Ricci. Et qui est le numéro 2 France en fait de Jean-Paul Gaultier, de Putsch, et c'était lui mon interlocuteur, c'est avec lui que je faisais des points d'étape, etc. Mais il était toujours très important de le rassurer sur la bonne conduite de la mission, sur le fait que ça se passait bien, mais bon, il avait des retours en interne aussi. Mais clairement, mon donneur d'ordre, c'était pas Jean-Paul finalement, c'était plus les personnes de chez Putsch. Voilà. Et pour la relation avec Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier est une filiale de Putsch, donc c'est la maison mère Putsch, donc des services partagés, des flux financiers de part et d'autre, voilà. Mais beaucoup de tensions à ce niveau-là, parce que forcément, pour les personnes de Putsch, Jean-Paul Gaultier, c'est un peu la danseuse aussi, hein, donc il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Donc justement, ça me donne l'occasion de faire une bonne introduction sur les enjeux majeurs de cette mission, certains que je vous ai déjà évoqués. Donc reprendre la direction générale au pied levé alors qu'il n'y en avait plus, donc ça c'est clair. Rassurer ses équipes totalement désorientées par plusieurs mois sans direction générale. Et pire encore, c'était des personnes de Putsch qui venaient pour dialoguer avec les instances représentatives du personnel, ce qui les achevait et les irritait au plus haut point. Donc, je dirais que mon arrivée les a apaisés dans ce sens.
Donc, optimiser le chiffre d'affaires haute couture et bien entendu, essayer d'en maîtriser les coûts. Mettre en place des processus à tout niveau. Et donc, j'ai donné l'exemple de cette réunion de cadrage, mais il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Je vous donne un exemple. Dans la maîtrise des coûts, un coût phénoménal, quand j'ai analysé les chiffres, c'était le transport de coursiers. Hein, parce que les robes, on les envoie par coursier. Parce qu'en fait, on envoyait tout par coursier. Hein, parce qu'on est dans le luxe et qu'on a en plus des coursiers qui sont capables de sonner 10 fois si la personne ne répond pas. Enfin bref, et d'arriver presque en dansant les claquettes. Et ça a un coût. Et à un moment donné, j'ai entendu dans les équipes qu'on pouvait quand même économiser, qu'il n'était pas nécessaire que toutes les courses soient livrées en une demi-heure, ce qu'on appelle une double exclue et qui coûte une fortune. Et très rapidement, avec l'accord des équipes, on a conclu qu'on arrêtait ces fameuses 12 exclus et qu'on allait limiter et optimiser ces courses autant que possible. Et là, j'ai mis en place un groupe de travail et on a réussi à faire des économies mais phénoménales. Pour vous donner une idée, on dépensait 37 000 euros. Je suis arrivée au mois de juin. Il y avait déjà eu, depuis le début de l'année, 37 000 euros de coursiers. Je trouvais quand même que c'était énorme alors qu'on n'était même pas en période de défilé. Donc ça, c'est pour les coûts, la mise en place de process. Il y a aussi des process de sécurité, hein, puisque l'hôtel particulier de Jean-Paul Gaultier lui appartient à la maison. Et les défilés se passent au sein de l'hôtel particulier. On a la chance d'avoir une salle de défilé qui est la plus grande en Europe. Et c'est des bureaux absolument magnifiques, mais qui permettent aussi l'accueil au public. Donc, il fallait mettre aussi en place avec la personne des services généraux tous les contrôles, etc., pour s'assurer qu'on respectait bien toutes les normes d'accueil au public, réfléchir aussi à ce qu'on pouvait faire avec cette salle en dehors des défilés, etc. Donc, ça, c'était intéressant. Reprendre la main des relations sociales, ben, je vous ai expliqué que ce n'était pas simple parce qu'en fait, auparavant, les relations étaient très conflictuelles avec la direction. Et du coup, les relations sociales, c'était plutôt... qu'est-ce que je vais faire pour enquiquiner la direction. Ça a très vite changé parce que les partenaires sociaux sont les premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai mis le pied, et je dis virtuellement, j'ai demandé au DRH, organise-moi le premier rendez-vous, je veux que ce soit avec les partenaires sociaux, avec le CSE. Et ça a été un bon parti puisqu'ils ont apprécié et que la relation est partie du bon pied. Ensuite, parmi les enjeux, gérer un partenariat en crise. Ben oui, quand je suis arrivée, il y avait un partenariat quand même d'1 million d'euros qui pouvait éventuellement se faire, sauf que c'est un partenariat avec des Chinois, une société qui s'appelle Bozideng et qui fabrique des doudounes, et ils ne se parlaient plus, ils se détestaient. Bozideng voulait travailler avec Jean-Paul Gaultier, essayer d'avoir des personnes en ligne, mais personne ne voulait leur parler parce qu'ils étaient un peu agressifs. Première chose que j'ai fait, c'est les recevoir et les appeler encore plus souvent qu'ils nous appelaient. Comme ça les a calmés. Et on a réussi à faire une collaboration assez extraordinaire. Jean-Paul est même venu aller en Chine pour le défilé. Enfin bon, ça a été, un partenariat témoin qui devrait se prolonger. Malheureusement, vu ce qui s'est passé en Chine ces derniers temps, ils ont préféré reporter, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en tout cas, maintenant, on a à nos côtés un partenaire solide qui n'est pas une licence, hein, je le précise, mais qui est un petit mariage, comme je les appelle, c'est-à-dire qu'on crée des collections de quelques pièces. Jean-Paul Gaultier crée des collections de prêt-à-porter de quelques pièces pour cette marque Bozideng. Donc, c'est une manière que j'ai trouvée aussi de réintroduire le prêt-à-porter en vue d'un projet futur dont je vous parlerai tout à l'heure. Parmi les enjeux, on m'a demandé de stopper les partenariats de licence. Ça, je vous en ai parlé. Moi, j'ai dit d'accord, mais au vu de l'ancienneté des licences, j'ai fortement recommandé qu'on le fasse de manière douce. Et l'argument que j'ai invoqué était que sur le plan juridique, on pouvait être nous reprocher, si on arrêtait les partenariats trop brutalement, de mettre en danger des entreprises qui étaient dépendantes. Donc, le service juridique de Pooch a bien entendu cet argument, ce qui m'a permis de gérer la relation de manière éthique, qui pour moi est une des priorités que je me suis toujours donnée en mission, et donc de stopper en douceur les partenariats de licence en les accompagnant, en leur en parlant et en leur donnant une visibilité de 3 ans pour les stopper. Ensuite, un des enjeux majeurs de ma mission était de préparer le terrain de la restructuration à venir. On ne voulait pas faire une restructuration pendant la période de préparation d'un défilé comme celui qu'on allait faire, qui était à la fois le défilé des 50 années de carrière de Jean-Paul Gaultier, mais également, ça, moi je le savais, son dernier défilé. Donc, mettre en place et annoncer un plan de restructuration avant cela aurait sans doute créé des mouvements d'inquiétude à l'intérieur de l'entreprise, sans parler des mouvements sociaux, qui auraient pu mettre à mal le bon déroulement de ce dernier défilé. Donc, on m'a demandé de le préparer en sourdine, de jalonner la restructuration future et de contribuer aussi fortement à l'élaboration de ce qu'on appelle le plan de continuité, c'est-à-dire du projet futur, qui est la résurrection du prêt-à-porter, mais d'une manière moderne et différente et rentable. Et puis enfin, le dernier enjeu était de passer le relais au nouveau directeur général. Au moment où je suis arrivée, ils n'arrivaient pas à le recruter et à trouver la bonne personne, raison pour laquelle ils ont souhaité que je reste sur une période d'un minimum 6 mois, de manière à assurer cette période entre deux défilés qui est si critique pour la maison. Et quoi qu'il arrive, ils m'ont dit tout de suite, si on recrute un nouveau DG et qu'il arrive plus tôt que prévu, on te laissera les coudées franches jusqu'à la fin de la mission, c'est-à-dire jusqu'au défilé, et le nouveau DG ne prendra pas ses fonctions de manière opérationnelle jusqu'à la fin du défilé. Au moins, les choses étaient claires, j'étais à l'aise avec ça, et c'est ce qui s'est produit. Ils ont trouvé assez rapidement un DG, et ils l'ont un petit peu mis au placard pendant quelques mois, le temps que les choses se passent. Voilà. Avez-vous des commentaires ou des questions sur les enjeux de cette mission ?
Oui, j'ai une question, Claire Perrin.
Oui, bonjour Claire.
WN, merci. Tous ces enjeux, c'était des enjeux qui ont été définis avant votre prise de fonction, ou est-ce qu'il y en a certains où finalement c'est votre diagnostic qui a permis d'en rajouter certains ou,
Alors, merci de cette question. Les enjeux étaient clairement ceux qui m'avaient été présentés, et vous allez voir qu'après, je vais passer à la slide suivante, l'état des lieux est un peu différent, et ça, vous faites bien de le souligner. Lorsqu'on arrive en mission, souvent on nous dit qu'il se passe quelque chose, mais la réalité du terrain, ou tout au moins le prisme du savoir du manager de transition qui est un externe, voit parfois des choses un peu différentes. Et c'est l'occasion justement, soit lors d'un rapport d'étonnement ou d'un échange avec le donneur d'ordre, de se réaligner et de lui dire voilà moi ce que je vois de ma fenêtre. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit en toute sincérité et transparence que j'observais certaines choses qui faisaient que la feuille de route devrait peut-être être ajustée. Donc, on y arrive et vous m'avez donné l'occasion de passer à cet état des lieux. Donc, en fait, ce que j'ai constaté tout de suite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chez Jean-Paul Gaultier, vous avez le savoir-faire. Et chez Pouch, vous avez le faire savoir, qui est la communication, le marketing, qui sont deux valeurs, qui portent des valeurs totalement différentes et qui, du coup, créent des tensions, non pas parce que les personnes sont mauvaises d'un côté ou de l'autre, ce sont des professionnels, mais elles ne parlent pas le même langage, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Et du coup, les intérêts des uns vont parfois contrarier les intérêts des autres. S'ajoute à cela le fait que certaines personnes, certains descriptifs de postes n'étaient pas clairs. Je vous donne un exemple. Par exemple, la directrice de presse et de communication de Jean-Paul Gaultier, chez Jean-Paul Gaultier, s'appelle Yelka Music. C'est une personne qui travaille depuis plus de 10 ans avec Jean-Paul Gaultier, qui le connaît parfaitement, qui connaît la presse, et c'est elle qui communique au moment des défilés. Eh bien, la personne qui communique pour les parfums chez Pouch a le même titre que Yelka Music. C'est aussi une directrice ou un directeur de la communication. Et ces deux personnes-là ne pouvaient pas se voir, mais on peut comprendre pourquoi. Ce n'est pas les personnes qui sont mauvaises, c'est le système qui n'est pas bon. On les a mis sur le même pied d'égalité. Et quand Yelka Music voit sur LinkedIn quelqu'un qui lui dit « t'as recruté un petit jeune » ou « tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été invité à tel événement ?» Eh bien, tout simplement, la personne du parfum a tout à fait omis d'indiquer qu'elle est directrice ou directeur de la communication Jean-Paul Gaultier parfum. Pour cette personne qui travaille chez Pouch, il est directeur de la communication Jean-Paul Gaultier. Et donc ça crée énormément de tensions entre Pouch et Jean-Paul Gaultier. Donc c'est pour cette raison que je le mentionne. Alors il y a plusieurs tensions. Il y a les tensions entre les équipes, que je mentionne sur le deuxième point, et puis il y a aussi les tensions entre Monsieur Gaultier
et la gouvernance de Putsch. Parce que quand ils se sont mariés, ils se serraient la main, vous avez vu sur la photo tout à l'heure, tout allait bien, mais rapidement, Jean-Paul Gaultier s'est senti un petit peu comme dans un carcan, quoi. C'est un homme libre, il ne s'imaginait pas qu'en vendant sa maison, il allait perdre aussi de sa liberté. En tout cas, il ne l'avait pas réalisé à ce point. Et effectivement, ça a été douloureux pour lui, tout comme ça a été douloureux pour les équipes de Putsch de manager, entre guillemets, un artiste comme lui, en plus, avec sa liberté de parole, qui fait que s'il n'est pas content, il ne va pas se gêner pour le dire, et ça peut avoir de fortes répercussions dans la presse, et donc indirectement aussi sur le chiffre d'affaires des parfums. Donc, grande difficulté, mais néanmoins, les deux ont mutuellement besoin de l'autre. Hein. Donc, mon arrivée, en fait, a beaucoup détendu la relation, d'autant plus que la tension montait, puisque se sont engagées des négociations financières pour le départ de Jean-Paul Gaultier, qui avait de nombreux contrats à différents niveaux avec Putsch, aussi bien sur son image personnelle, sur différentes choses, et qui du coup étaient des négociations de départ extrêmement complexes et extrêmement tendues. Et au départ, c'était par avocat interposé. Moi, je suis arrivée avec ma casquette de médiateur et je leur ai dit, écoutez, si vous ne vous rencontrez pas Monsieur Gaultier et Monsieur Putsch, et que vous n'alignez pas vos intentions, comment voulez-vous que vos avocats arrivent à les traduire ? Vos avocats se battent, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps, et on ne va pas arriver à conclure cette négociation avant le défilé. Puisque pour faire l'annonce du départ de Jean-Paul Gaultier, il fallait avoir bouclé, bien sûr, bouclé les négociations financières. Donc, j'ai été, ce qui n'était pas prévu au départ, hein, et Claire, c'est, je réponds à cette question, c'est que sur la feuille de route n'était pas du tout inscrit que je deviendrais le médiateur officiel entre Jean-Paul Gaultier et Putsch, et finalement, je le suis devenu par la force des choses et par l'opportunité, et parce que j'avais le savoir-faire, et ça a permis d'avancer beaucoup plus rapidement sur ces négociations tendues et complexes. Ensuite, j'ai bien vu que effectivement le climat social interne était difficile, et ça, je pense que Putsch ne l'avait pas réalisé, donc en tout cas pas à ce point-là. Donc, dans mon état des lieux, bien entendu, je l'ai soulevé. En les rassurant sur le fait que mon intégration se passait très bien et que je pensais que ça allait se calmer très vite, ce qui s'est passé. Ensuite, il y avait quand même cette défiance des salariés envers la direction de Jean-Paul Gaultier, hein, qui ne tient pas ses promesses, qui fait des enquêtes de satisfaction mais ne donne pas les résultats, il n'agit pas. Enfin, moi, il y avait tellement de choses en fait concrètes qui faisaient que les équipes étaient en défiance par rapport à la direction. Finalement, ça a été assez facile pour moi de retourner la situation parce qu'il a suffi que je fasse quelques promesses et que je les tienne. Et vous savez, c'est une culture aussi jeune, donc ils sont versatiles. Donc ils peuvent bouillir comme une soupe au lait et péter un câble, comme on dit. Ce qui s'est passé au moment de l'arrêt du prêt-à-porter, hein, ils sont tous allés sur les Champs-Élysées avec des banderoles, avec marqué dessus « Jean-Paul emploi ». Paul emploi. Non, je trouvais que c'était assez drôle. Jean-Paul n'a pas apprécié. Mais, pour vous dire qu'ils sont, ils sont créatifs, mais ils sont aussi assez péchus. Mais quand ils se calment vite, c'est ce qui s'est passé, heureusement pour moi et pour eux. Donc, je vous ai parlé de cet état des lieux, ce constat d'une culture d'entreprise complexe, avec des artistes dans le studio, la mentalité ouvrière à l'atelier, mais pas que, hein, parce qu'il y avait aussi le service presse qui ne s'entendait pas avec le service marketing, enfin bon, énormément de je dirais, d'incompris dans cette entreprise, dans cette maison, alors qu'ils arrivent quand même à faire de si belles choses. Hein, mais en creusant, il y avait quand même des axes d'amélioration énormes dans la communication interne. Des équipes autonomes, hein, donc ça, Sébastien, tu l'avais bien remarqué, mais rebelles, très rebelles, à l'image de l'enfant terrible. Et puis, bien sûr, le directeur artistique, DA pour directeur artistique, qui est adulé et avec lequel il faut composer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on manage Jean-Paul Gaultier, on compose avec. Donc, en conclusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passe ou ça casse. Oui, j'entends pas très bien qui
est... C'est Thierry Dupuis qui te parle.
Oui, bonjour Thierry.
Bonsoir Élodie. Juste une petite question. Tu as dit que Putsch avait racheté Gaultier en 2011, si j'ai bien compris.
Oui.
Et tu disais également que le poste de direction générale était vacant avant que tu n'arrives.
Oui.
Donc, je voudrais te poser deux questions. C'est un, est-ce que tu as eu les éléments de ce départ et pourquoi le DG est parti? Dans quelles conditions a-t-il été débarqué? Est-ce que c'est une décision qu'il a prise lui-même pour d'autres raisons, carrière, évolution, ce que l'on veut? Et deux, comment se fait-il que toutes ces tensions, tous ces problèmes que tu listes et que je comprends parfaitement, aient perduré depuis quand même 2011 finalement?
Eh bien, c'est difficile à comprendre pourquoi, pourquoi ça a duré si longtemps. Mais pour répondre à ta première question, Thierry, pourquoi est-elle partie? Bon, ben, en fait, c'est une personne qui avait évolué en interne et qui avait gagné ses galons. Mais petit à petit, elle ne s'est plus sentie très à l'aise dans la relation et dans son rôle. Elle a eu envie de faire autre chose, donc elle est partie. Elle est partie. Je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément de savoir-faire, parce que pour arriver à ce poste-là, elle savait faire son métier. Mais elle avait une culture beaucoup plus financière, en fait. Elle gérait la comptabilité, ensuite elle a pris la direction financière, ensuite elle a pris la direction générale. Et en fait, ce qui ne s'est pas produit, c'est un mouvement aussi d'accompagnement des équipes et d'écoute de leurs besoins. Je ne la critique pas, hein, c'est toujours facile de dire après on fait mieux, etc. Je pense qu'à ce moment-là, les équipes avaient vraiment besoin d'une attention humaine. Et à ce niveau-là, Jean-Paul, qui connaît bien ses équipes, m'a dit « Je sais qu'en vous recrutant, je ne me tromperai pas sur la personne ». Et je lui ai dit, il n'y a que vous qui connaissez vos équipes et qui pouvez le savoir. Parce qu'en fait, juste pour revenir à cet entretien, premier entretien que j'ai eu avec Jean-Paul, on devait être deux donc, à le rencontrer. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être la première et qu'il n'a jamais voulu rencontrer le suivant. Et qu'il m'a tapé dans la main à la fin de l'entretien en me disant, quand est-ce que vous commencez? Est-ce que vous êtes disponible? On était vendredi. Est-ce que vous pouvez commencer lundi? Et à ce moment-là, comme je connaissais mon concurrent, et je l'appréciais, je lui ai dit, mais quand même par respect pour lui, vous ne voulez pas rencontrer l'autre personne? Il dit non. Il dit, en plus, j'aime travailler avec les femmes et on va bien travailler ensemble. Voilà. Et il se trouve qu'il n'a pas rencontré l'autre. Parce qu'il savait, au-delà du savoir-faire, je pense qu'on nous recrute aussi parce que ça va passer avec les équipes. Et finalement, ça, nous, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne les connaît pas, les équipes. Mais quelqu'un comme Jean-Paul Gaultier, qui est aussi sensible à l'humain, à son esprit créatif, c'est une éponge, hein, mais c'est une éponge aussi au niveau émotionnel. Donc, il savait, il a compris qu'il fallait un certain type de personne pour son équipe. Et lui, il ne savait pas le faire, ne voulait pas le faire. Ce n'était pas son rôle. Et voilà, il m'a choisi pour ça. J'ai eu de la chance.
Et du coup, est-ce que c'est chose que vous avez mis en place, un relais entre vous, manager de transition, et le nouveau DG? Est-ce que vous lui avez servi de mentor pour que effectivement ça se passe bien et que vos actions soient
pérennes,
continuées et puis amplifiées?
Alors ça, c'est un point extrêmement important qui est souvent dénigré d'ailleurs, cette passation de relais par les donneurs d'ordre. Parce que c'est un peu comme le cheval qui arrive à l'écurie, hein, en fin de mission, il se dit ça y est, c'est fait, les résultats sont là, le passage de relais, allez, on le fait vite fait et on passe à autre chose. Maintenant, parce que finalement, c'est ce qui permet d'assurer la pérennité de l'investissement qui est celui du donneur d'ordre quand il recrute un manager de transition. Donc là, sur cette mission, et c'est la toute première fois en ce qui me concerne, j'ai eu la grande chance d'avoir une passation qui a duré 4 mois parce qu'ils ont trouvé ce manager, le nouveau DG, rapidement. Et que du coup, j'étais en relation très proche avec lui. Alors, il n'était pas dans les bureaux de Jean-Paul Gaultier, il est resté chez Pouch, sur les Champs-Élysées, en ayant conscience en plus qu'il se poucherisait, le pauvre. Mais on a travaillé la relation, et en fait, je l'ai vu évoluer autour des 4 mois. Je vais en parler, regardez, c'est pas par hasard, il est après. Alors, j'ai flouté sa photo parce que l'objectif, c'est pas de mettre un nom sur lui, ni rien du tout. Et donc, son visage, il est très flou. Mais vous voyez, il est arrivé le 1er octobre. Moi, je suis arrivée au mois de juin. Donc, finalement, il est arrivé peu après l'été. Mais il a été mis au frais pendant 4 mois, réellement. Et ça a été très difficile pour lui. Parce qu'il n'avait qu'une envie, ce jeune homme, en plus, c'est un profil inattendu dont je vais vous parler. Il n'avait qu'une envie, il piétinait tous les jours, parce qu'il avait le titre, mais il n'avait pas la fonction réelle. Et pendant 4 mois, c'est long, en plus, l'organisation de ce défilé faisait beaucoup de bruit. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? C'est que dans une entreprise, il est très difficile d'avoir deux dirigeants.
À qui vous reportez? C'est pas possible. Donc, je pense que la décision a été bonne de se dire je reste jusqu'à la fin du défilé, il prendra la main. En revanche, on n'a pas attendu pour se connaître, pour parler. Et effectivement, moi, j'ai été au départ très surprise par son profil, qui est, je vous le décris, il a 34 ans, donc un très jeune homme, qui n'a jamais eu de track record dans le luxe, ni en tant que DG. En fait, il a été consultant pour Boston Consulting Group, BCG. Donc, c'est un consultant qui a l'habitude donc, des transformations en entreprise, mais finalement, qui ne les a jamais opérées lui-même et qui, surtout, n'a jamais été en position de diriger une maison de couture ou ni même une entreprise, si ce n'est une start-up qu'il a créée avec une de ses amies, mais ils étaient cinq. Donc, ils ont fait le pari d'un profil première expérience de DG. Ce qui a plu dans son profil, je pense, c'est son mode très agile et surtout le digital, puisque la marque qu'il avait créée était une marque entièrement digitale, une marque très confidentielle, mais il a fait ses preuves quand même de développer ce qu'on appelle des drops en langage de mode, c'est-à-dire des petites collections qui tournent. Hein, et en fait, ils l'ont recruté parce que chez Pooch, ils vont mettre en place ce système pour redonner vie au prêt-à-porter. Hein, donc, ils voulaient quelqu'un qui connaisse ce métier. Un des écueils auquel il a dû faire face, ce jeune homme, c'est qu'il a été poucherisé, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un terme qu'on a inventé ensemble, pendant 4 mois, et que les équipes savaient qu'il était chez Pooch et que ce n'était pas une bonne chose pour lui. Et en dernier lieu, Jean-Paul ne voulait pas le rencontrer parce que Jean-Paul voulait que je reste. Et j'essayais d'expliquer à Jean-Paul qu'en fait, je n'étais pas quelqu'un qui souhaitait rester. Il m'a dit, mais Élodie, pourquoi est-ce que tout le temps vous voulez changer de boulot quand même? Et de mission. Et je lui dis, je peux vous répondre à sa question directement, je lui dis, mais vous, Jean-Paul, pourquoi à chaque saison vous voulez changer de collection et pourquoi vous avez besoin de créer de nouveaux? Elle m'a dit, j'ai compris. Vous avez besoin de vous renouveler. Je lui dis, ben, c'est comme vous. J'ai besoin, à chaque fois que je démarre une mission, de me remettre en question, d'inventer, de me réinventer, etc. Et en fait, j'ai expliqué à Jean-Paul que je n'étais pas la personne pour rester. En revanche, il aurait bien aimé que je reste 6 mois de plus de manière à assurer la continuité après son départ, parce que faire venir un nouveau directeur général alors que le directeur artistique tant aimé de son équipe s'en va, ça fait quand même déjà 2 points de rupture importants. Et donc, un risque que les équipes paniquent. Hein. Donc, il y a ça, plus la première d'atelier qui a donné sa démission parce qu'elle n'a pas pu supporter l'idée de... Enfin, bon, elle a voulu faire autre chose aussi. Puis, il y avait quelques difficultés pour elle au sein de la maison. Et donc, du coup, beaucoup de points de rupture au sein de la maison Jean-Paul Gaultier au même moment. Donc, mais Pooch n'a pas voulu, il a dit non, on a choisi ce profil, il commence, etc. Donc finalement, on a dû composer l'un avec l'autre, avec ce nouveau DG. Ça s'est très bien passé. Je lui ai proposé de rester quelques mois à ses côtés. Il m'a dit non, je peux très bien me débrouiller tout seul. Je me suis dit, mon coco, tu vas morfler parce qu'il va devoir faire un plan de restructuration, un plan, lancer un nouveau projet en même temps. Et ce n'est pas simple du tout quand on ne l'a jamais fait. Et qu'en plus, on a les écueils que j'ai cités. Et voilà. Mais je pense que la crise qu'il traverse actuellement joue aussi en sa faveur parce que c'est un élément assez fédérateur dont il sait tirer parti. Hein, il a bien écouté mes conseils et celui du DRH qui l'accompagne, qui est il faut travailler l'humain. Hein. Au départ, lui, sa posture était plutôt de dire aux équipes, bon, écoutez les gars, il va falloir oublier Jean-Paul Gaultier. Et comment il disait il va falloir faire le deuil de Jean-Paul Gaultier et j'ai besoin de vous. Et je lui dis, mauvais discours, je lui dis parce que faire le deuil, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. On parle d'émotionnel, il va falloir donner le temps au temps. Et c'est toi qui vas leur donner envie de faire le deuil. Tu ne peux pas leur dire, faites le deuil. Au contraire, ils vont s'énerver. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Faire le deuil et perdre le fil.
J'ai besoin de vous.
Et merci. Et j'ai besoin de vous, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire qu'il ait besoin d'eux? Donc, on a retravaillé son discours et son approche et il a compris qu'en fait, c'était une entreprise déjà très affective, beaucoup plus affective que process, et qu'il allait falloir qu'il change de mentalité parce que lui, en tant que consultant, c'est un normatif. Hein, et que pour travailler bien dans cette maison, il faut avoir un cerveau droit, un cerveau gauche qui fonctionnent tous les deux. Donc, je pense que ça se passe bien pour lui aujourd'hui, j'en suis ravie. Alors qu'au départ, j'avoue que j'avais quand même pas mal de réserves sur sa capacité à s'intégrer.
Alors, un aspect particulier qui m'intéresse dans ce passage du relais, c'est que ce que tu as décrit, notamment dans ton intégration et dans la rupture managériale que tu as incarnée, suppose que, justement, il y a eu une appropriation de ce changement en ta personne, ce qui, a priori, ne facilite pas le passage du relais. Alors, est-ce que tu as fait le choix de assumer une nouvelle rupture? Est-ce que tu as fait le choix de progressivement diminuer l'impact d'identification ou encore un autre choix?
Alors, la question est très intéressante parce qu'en fait, effectivement, j'ai pas fait. Bon, déjà, je suis comme je suis et je peux pas m'empêcher d'être humaine, de m'intéresser aux gens, etc. Je pense que c'est difficile de dire on va changer totalement. Néanmoins, il est arrivé dans des missions que j'ai un management beaucoup plus directif parce que c'était des missions de crise et que dans la crise, les gens sont complètement perdus et que si on n'a pas un peu plus de poigne, on n'arrive à rien. En tout cas, pendant une première période. Là, ce n'était pas la situation. La situation, c'était des équipes affectives qui avaient besoin qu'on les soigne et qu'on les chouchoute et qu'on s'intéresse à elles et qu'on leur redonne de la joie. Effectivement, j'étais tout à fait consciente de la difficulté de mon successeur éventuel, quel qu'il soit, hein, par rapport à ce parti pris. Et d'ailleurs, le DRH avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, on était un duo presque inséparable. On s'est dit, il faut absolument qu'on continue à travailler ensemble un jour peut-être. Il a dit au nouveau DG, il lui a dit, tu sais, tu ne sais pas après qui tu passes. Et il l'a bien entendu. Et il a entendu derrière ça qu'il passait après quelqu'un qui avait su opérer une transformation culturelle dans l'entreprise en un temps record, mais aussi changer les repères, ça veut dire changer un système. Et je l'ai vécu par le passé dans une autre mission qui était chez Pierre Hermé, où je suis arrivée aussi dans une équipe qui était psychologiquement très atteinte, beaucoup de burn-out, etc. Et j'ai constaté qu'en fait, une fois que le système est changé, il y a peu de retour en arrière possible pour le successeur ou la personne qui prend le relais. Pourquoi ? Parce que le système est plus fort que l'homme. Et ce que j'ai expliqué aux équipes à l'époque chez Pierre Hermé, qui s'inquiétaient du retour d'une personne dont le style managérial ne leur convenait pas, je leur ai expliqué qu'avant mon arrivée, c'était des individus qui travaillaient ensemble et on avait créé ensemble une véritable équipe et une dynamique d'équipe. Et que ce n'étaient plus des personnes isolées, c'était une équipe. Donc, une équipe qui pouvait s'appuyer les uns les autres. Et que la personne qui était partie pendant cette parenthèse et qui revenait, finalement, devrait s'adapter à ce nouveau paradigme qui était cette culture qui avait évolué. Et quand une culture évolue dans ce sens-là, à moins qu'un dirigeant arrive et casse les codes et les maltraite, c'est possible, hein, il peut y avoir des retours en arrière. Mais l'équipe devient plus forte parce qu'aussi elle prend de l'assurance et qu'elle s'unit pour lutter contre l'adversité. Et l'adversité, ça peut être le nouveau DG. Hein, donc, je crois qu'il a pris conscience de ça et qu'il a changé son fusil d'épaule et qu'il s'est adapté parce que c'est un garçon intelligent. Et qui a envie d'apprendre. Et sans doute, pour lui, l'enjeu était énorme. Parce qu'imaginez, il aura sur son CV qu'il a dirigé la maison de couture Jean-Paul Gaultier. Et c'est son premier job. C'est extraordinaire comme tremplin pour lui. Donc, il avait tout intérêt à écouter les conseils de ceux qui savent. Et il l'a fait.
Élodie, je m'interroge. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Si j'ai bien suivi, donc, un nouveau DG.
Oui. C'est Marion, hein, je vois pas ton visage, Marion, mais je reconnais ta voix. Ouais.
Donc, un nouveau DG, un nouveau DA, je suppose.
Oui, pas tout à fait. Comment ? Je vais vous expliquer le business model, mais ce n'est pas tout à fait un nouveau DA.
D'accord. Enfin, quelqu'un qui va porte la figure de l'emblème de la marque. Mm-hmm. Une première d'atelier qui s'en va.
Ouais.
Quand même, le triptyque de tête qui est mis à mal, plus un business model qui change complètement. De la haute couture vers l'intégration du prêt-à-porter, qui sont deux métiers qui sont absolument radicalement différents, quoi. Donc c'est plus challenging là.
C'est la révolution dans la maison. C'est la révolution dans la maison. Tu as raison, Marion. Effectivement, dans les ruptures, je n'avais pas mentionné le changement de business model complet, sachant qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu d'arrêter la haute couture. Donc, il y a quand même une continuité et les équipes sont rassurées sur le fait que la haute couture continuera. En ce qui concerne le prêt-à-porter, c'est vu de manière très positive parce que les équipes regrettaient qu'il n'y ait plus de prêt-à-porter. Et c'est de la manière dont ça va être fait, c'est moderne, ça donne envie à tout le monde. Donc, au contraire, c'est un projet que je trouve très fédérateur s'il est présenté de la bonne manière et par une personne qui est crédible. Et enfin, en ce qui concerne les DA, il a été choisi par Jean-Paul. C'était l'idée de Jean-Paul. De faire des DA qui tournent. Et là encore, je le trouve très précurseur. Il a la chance, en fait, de choisir de partir, alors qu'énormément de directeurs artistiques restent jusqu'au bout et partent les deux pieds devant, comme on dit, hein, et laissent la maison devant un fait accompli de devoir trouver en urgence le successeur. Là, il a l'intelligence de se dire, bah, moi, j'ai envie de partir et de faire autre chose. Je vais préparer mon départ. Et ce que je souhaite, c'est qu'à chaque collection, ou chaque année, ce n'est pas encore tout à fait défini, vienne un nouveau directeur artistique qui réinterprète les codes de Jean-Paul Gaultier et de la maison. Et en fait, il se dit, moi, finalement, je vieillis. Il y en a peut-être d'autres qui se sont inspirés de ce que j'ai fait, qui seront capables de faire encore mieux que moi, parce qu'ils vont assurer la continuité de ce que j'ai fait. Ils auront mes archives, ils auront tous les éléments et je serai là pour les accompagner. Mais ils vont rafraîchir. Avoir une nouvelle interprétation de mon travail. Et là où je trouve que l'idée est très forte, c'est qu'effectivement, son intention est d'avoir régulièrement un nouveau DA. Mais ça veut dire aussi que le poids de la culture de l'entreprise sera d'autant plus fort sur les épaules du DG, hein, puisque c'est lui qui va assurer la continuité culturelle de l'entreprise avec une direction artistique mouvante.
Et te méprends pas, Elodie, je trouve que intellectuellement l'idée est séduisante, mais un nouveau DG avec un profil quand même plutôt extrêmement junior devise dans ce secteur qui est quand même relativement particulier, qui intègre un nouveau métier. J'entends que le prêt-à-porter séduise les équipes, mais c'est pas les équipes dont je parle, c'est que les process en prêt-à-p n'ont rien à voir avec ceux de la haute couture. La nature même des équipes doit changer puisque les savoir-faire ne sont pas les mêmes.
Absolument. Mais c'est une vraie restructuration. Je ne parle pas d'un changement. C'est plus qu'une restructuration, c'est un retournement. C'est-à-dire qu'on garde certains fondamentaux, on en change d'autres. Et ça nécessite, comme tu dis, Marion, de changer pas mal de compétences au sein de la maison. Et ça, jusqu'à présent, il n'est pas encore rentré dans cette phase-là. Déjà, la crise du coronavirus est arrivée, donc ce n'est pas le moment de gérer ça. D'autant plus que la DA qu'ils ont choisie, en plus, est au Japon, donc elle ne peut pas venir. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de défilé au mois de juillet, tout est retardé. Enfin bon, il va avoir affaire à une crise dans la crise, en fait. Et effectivement, je trouve que pour gérer ce type de projet, il faut avoir les épaules drôlement solides. Donc, je lui souhaite bonne chance. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je trouve qu'effectivement, il en a pas mal sur ses épaules. Mais il ne veut pas être aidé. Et c'est son choix. Il ne veut pas être accompagné. En tout cas, pas par moi.
Ben, bonne chance.
Non, mais je comprends qu'il ne veut pas être accompagné par moi. Et ça n'a rien à voir avec ma personnalité ou ma personne, ou peu importe. Il sait très bien que ça s'est passé bien avec les équipes. Donc, il s'est dit, ça va être difficile pour moi de prendre mes marques avec Elodie dans les pattes. C'est pas possible. Mais je le comprends.
Elodie, est-ce que je peux suggérer que tu déroules ta présentation et qu'on garde...
Mais voilà. En fait, vous savez, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je suis d'accord, j'ai regardé l'heure et il est 6h20. Ouais. Donc, je vais, merci de me le rappeler, je vais avancer un petit peu plus vite. Néanmoins, on gardera un petit peu de temps pour les questions. Alors là, on va aller effectivement beaucoup plus vite parce que comme on a pris le temps de discuter, tout a été dit pratiquement. Au niveau social, il y a trois volets dans ces chantiers. Le volet social, avec créer le lien avec les équipes, décloisonner, intégrer le nouveau DG et vendre la restructuration de CSE, ce que j'ai fait. Le volet médiation avec les négociations facilitées avec Jean-Paul Gaultier et Pouch, Monsieur Jean-Paul Gaultier. Apaiser les conflits internes, c'est dit. Préparer Monsieur Gaultier à son départ, parce que psychologiquement, quand même, il était assez... il savait qu'il voulait le faire, mais il craignait de le faire. Et puis, faciliter le dialogue social avec le nouveau DG. et l'introduire. Opérationnel, fluidifier les process, instaurer le suivi des budgets par le contrôle de gestion, parce que ça, ce n'était pas fait. Et puis, piloter ce gros projet du plus grand défilé jamais fait par Jean-Paul Gaultier pour son départ. Et puis, optimiser le chiffre d'affaires, la production, etc. Bon, vous voyez, tout a été dit sur cette slide-là. On peut avancer. Les résultats. Alors ça, c'est intéressant quand même, puisque je vous ai parlé de la feuille de route. Je vais quand même vous dire ce qui s'est passé dans la réalité. On a réussi à atterrir 2019 dans les budgets, ce qui n'était pas du tout gagné, parce que ça dérapait gravement en début d'année. Je vous ai parlé des coûts des coursiers, mais il n'y avait pas que ça. Un prévisionnel maîtrisé pour 2020. Alors, je parle avant la crise du coronavirus, parce que là, à mon avis, ça s'est largement dégradé. Mais tout était bien calé, y compris les partenariats que j'avais montés et qui allaient, étaient sur le point d'être signés, dont celui avec Bosideng, mais d'autres aussi. Et puis, une équipe qui a repris confiance, et ça, c'est très important, et qui se réengage. Et ça, on le voit avec des indicateurs, outre le fait que les gens le disent, mais on a un taux d'absentéisme qui a largement baissé. Les gens ne voulaient plus partir, ils restaient. Et puis, on a vu la productivité bien s'améliorer, parce que les gens communiquaient mieux, tout simplement. Quatrièmement, un monsieur Gaultier qui est rassuré. Parce que je suis à ses côtés et que parfois je fais le lien avec Pooch et que je lui évite de le faire et de s'énerver. Pooch de son côté aussi très soulagé d'avoir quelqu'un qui gère avec diligence et les budgets, mais surtout le social dans une maison qui est assez difficile à gérer. Et puis finalement un défilé 2020 qui roule, quoi, parce que les gens savent et connaissent bien leur métier, mais aussi parce qu'on a mis en place beaucoup de garde-fous et une organisation, je dirais, au carré et au cordeau, avec des réunions d'équipe, avec des choses qui ne se pratiquaient pas du tout. Et je vais vous donner une petite anecdote très rapide. Une des premières d'atelier, qui s'appelle Mireille et qui a travaillé plus de 20 ans aux côtés de Jean-Paul, est venue spécialement pour l'aider sur ce projet. Simplement, évidemment, il y avait quelques tensions entre elles, celle qui est sur place et qui est salariée, ce n'était pas simple. Et cette fameuse Mireille détestait les réunions. Une réunion, pour elle, ce n'est pas possible. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai fait en sorte que la réunion vienne autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle restait dans son atelier, puis tout d'un coup, il y avait les deux autres premières d'atelier qui se pointaient, il y avait la personne du studio qui coordonnait, etc. Et de facto, elle se trouvait en réunion sans le savoir. Et voilà, mais vous voyez, il faut ruser avec ces personnes-là parce qu'on ne peut pas les attaquer de front et avec brutalité. Donc finalement, le défilé s'est passé dans la sérénité. Dernier jour, c'était un peu stressant quand même, mais ça s'est bien passé. Et puis, une communication interne et externe qui est maîtrisée. Et ça, c'est très important parce que quand on prépare une annonce aussi médiatique que le départ du créateur Jean-Paul Gaultier, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Et il y a un bon moment pour communiquer. Et le bon moment, ce n'est pas trop tôt. Au début, ils voulaient le faire au mois d'octobre, au moment de la Fashion Week. C'était beaucoup trop tôt par rapport à la fin du défilé, le dernier défilé qui était en janvier. Donc moi, j'ai plutôt suggéré que ce soit juste avant, mais pas la veille. Donc tout ça, on l'a maîtrisé. J'ai mis ensemble les équipes de Pooch et de Jean-Paul Gaultier qui ne s'entendaient pas et on a réussi à travailler ensemble. Mais surtout, on a fait une réunion extrêmement importante avec les dirigeants de Pooch, Jean-Paul Gaultier, enfin tous les actionnaires. Il y avait même la cousine de Jean-Paul Gaultier. Et alors qu'ils ne s'entendaient pas, c'était une réunion en partie en visioconférence qui a été pleine d'humour, pleine de... Enfin, on sentait que tout le monde était à l'aise. Et ça, je pense que c'était dû à une bonne préparation de la communication parce que j'avais fait du lobbying d'un côté et de l'autre. Et finalement, il n'y avait pas de mauvaise surprise au moment de la réunion et on a pu s'aligner sur tous les messages. Et ça, c'était très bien. Et puis finalement, dans les résultats, mon successeur, donc ce jeune BG, qui prend ses fonctions dans un climat qui est assaini. Après, il ne tient qu'à lui que de faire son empreinte et de prendre le relais et de s'inscrire dans l'histoire de la maison, ce qui n'était pas mon rôle à moi, mais qui sera le sien. Et là, je dirais que l'histoire est en train de s'écrire et je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c'est que les premiers signes sont bons et que les équipes, les retours que j'ai, c'est finalement, il n'est pas si mal. Donc, pour moi, j'entends ça comme quelque chose de très positif. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, quand on quitte une mission, ce qui est important, c'est de se poser quelques questions aussi et d'essayer d'anticiper les choses pour pouvoir aider les équipes. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que, comme toi, Marion, est-ce que le nouveau business model Pooch tient la route?
Est-ce que toutes ces ruptures ne vont pas créer un déséquilibre et déstabiliser l'entreprise? Est-ce que le nouveau DG parviendra à retrouver ses marques dans ce contexte aussi incertain, et particulièrement en ce moment, ça ne lui facilite pas la tâche? Est-ce qu'il sera, lui, en capacité de piloter une restructuration aussi complexe? Il y a aussi la question de la marque. Est-ce qu'elle va résister au départ d'un DA aussi, d'un directeur artistique aussi charismatique que Jean-Paul Gaultier? C'est un vrai pari quand même. Est-ce que les nouveaux vont réussir à jouer le jeu? Et puis finalement, l'entreprise, qui est quand même fragile, sortira-t-elle indemne de cet impact du Covid-19? Donc moi, c'est les questions que je me pose aujourd'hui en tant que professionnelle sur cette mission, que vous vous êtes posée aussi naturellement. Ensuite, j'aime bien tirer des leçons pour moi, pour le manager de transition. En fin de mission, on fait un peu son bilan. Et d'ailleurs, la présentation que je vous fais est aussi très cathartique. Elle permet au manager de transition de se poser les bonnes questions. Et en vous parlant, d'une certaine manière aussi, je fais le deuil de cette belle mission. J'avais un petit peu de mal à partir et j'étais assez émue en passant le seuil de la porte le dernier jour. Donc, 6 leçons à tirer sur cette mission. La première, c'est la contribution de cette EMT, donc Grant Alexander, avec qui j'ai travaillé. J'ai trouvé que, déjà, il m'avait énormément aidé dans la phase de négociation. Ils ont réellement eu ce rôle de sparring partner que jouent les EMT dans un monde idéal. Bien, ils ont fait le boulot et je les remercie. On a eu des déjeuners avec Alban, il y a eu un suivi, des coups de fil. C'était plutôt informel parce que finalement, la confiance mutuelle et la maîtrise de la situation en mission faisaient que j'avais pas besoin de mettre tant de jalons et de rassurer autant que ça le cabinet, mais malgré tout, ils ont été présents. Ensuite, deuxième leçon. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai commencé cette mission en facturant, parce que j'ai une entreprise. Et finalement, on a fait le choix mutuel d'un CDD entre le mois de septembre et le mois de janvier. Donc, j'ai eu un CDD de 5 mois. Et finalement, c'était une très bonne chose, ce CDD, à plusieurs titres. Bon, déjà, la raison de ce CDD, c'était que je devais dialoguer avec les instances représentatives du personnel et que la culture d'entreprise n'acceptait pas un système mixte où j'aurais très bien pu continuer à facturer et être salarié un jour par mois, par exemple. Ce n'était pas dans la culture de Pooch, ils étaient mal à l'aise avec ça, donc ils ont souhaité un CDD. Mais finalement, c'était une bonne chose parce que, imaginez, ils ont recruté rapidement un DG, ils auraient peut-être été tentés de faire l'économie du manager de transition. Si j'avais été en facturation, ils auraient très bien pu utiliser la clause du préavis d'un mois et me dire merci, au revoir, Élodie, c'est le nouveau DG qui prend la main. Et je pense que ça aurait été une erreur parce que ça aurait pu mettre à mal l'organisation à un moment critique. Voilà. Donc, et puis pour moi, je n'aurais peut-être pas eu cette belle opportunité de rester en mission jusqu'à la fin. Donc j'estime que c'était une belle chose que d'être en CDD. Ensuite, tout à l'heure, c'est Françoise, je crois, qui a fait part du fait que la feuille de route n'est pas nécessairement la même chose que ce qui en ressort quand on a fait un audit. Eh bien, c'est exactement la leçon que j'en tire, c'est-à-dire, dans toutes les missions, il ne faut jamais prendre pour argent comptant la feuille de route qu'on nous propose. Il faut la challenger un petit peu. On est des professionnels, on n'est pas des exécutants, on est des dirigeants de transition. Et donc, cette fois-ci n'a pas été une exception. Le diagnostic a démontré que la feuille de route, finalement, a évolué et que tout le volet médiation, notamment, mais il y en a eu d'autres, qui n'étaient pas du tout inscrits dans la feuille de route initiale, s'est inscrit naturellement en cours de mission. On n'a pas fait d'avenant sur un sujet aussi humain, je dirais, je n'ai pas voulu le faire. Mais dans certaines missions, ça vaut la peine de le mentionner, voire parfois aussi de faire évoluer la rémunération quand le spectre des responsabilités évolue fortement. Mais en tout cas, pour moi, c'était une troisième leçon. La quatrième, elle découle de la troisième, c'est que finalement, il tient qu'à nous de recalibrer la mission. Vous voyez, si j'avais décidé de travailler avec des œillères, je n'aurais pas regardé ce volet médiation alors que j'ai le savoir-faire. Mais finalement, je l'ai proposé et ça s'est bien passé parce qu'on travaille en équipe et qu'ils ont senti que j'avais la compétence pour les accompagner aussi sur ce volet-là. Mais ça tient qu'à nous. Voilà, on est en mission, on peut la recalibrer. Ce n'est pas parce qu'un contrat est écrit qu'il ne peut pas évoluer. Et puis, je dirais que en conclusion, ou presque, et ça, ça concerne vraiment toutes les missions que j'ai menées, j'estime vraiment que le savoir-faire représente à peu près 20%. C'est un prérequis. On a 20 années de métier et on sait faire le job. Mais néanmoins, ce qui va faire la différence et le succès de la mission, ce sont les soft skills. Vous voyez, je vous ai expliqué longuement comment j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier, comment on avait tissé un lien. Ben, s'il n'y avait pas eu ce lien, la mission ne se serait peut-être pas aussi bien passée de manière si fluide. Donc, ce sont finalement, c'est la posture du manager, c'est sa personnalité, c'est sa capacité aussi à être authentique. On peut s'ajuster à une culture d'entreprise, mais il ne faut pas perdre ce qu'on est réellement au fond de soi. Et je ne vous cache pas que moi, il y a des missions que je n'accepte pas, parce que je sais qu'elles ne sont pas pour moi. Hein, s'il faut faire le rouleau compresseur et fermer des boîtes en virant les gens sans budget, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Je dirais que ces missions-là sont certainement pour d'autres personnes. Moi, j'accepte des sujets de restructuration difficiles, mais il faut qu'il y ait quand même la notion de l'humain qui soit respectée et mes valeurs ne peuvent pas être contredites. Et puis, dernière leçon, et ça, je me la rappelle à chaque mission, c'est, alors 150%, ça n'existe pas, mais ça veut simplement dire qu'on est complètement engagé tout au long de la mission. Ce n'est pas parce qu'on est là pour une durée déterminée qu'on n'est pas là à 150%. Et je le dis aux équipes, hein. Je leur dis, je vous dis quand j'arrive, je me présente, je vous dis quand je vais partir, et ça, c'est assez nouveau pour vous sans doute, mais en tout cas, sachez que je suis là à 150% avec vous tout au long de la mission. Vous allez oublier que je suis là de passage, et c'est le cas. Et en revanche, ce qui est beaucoup plus difficile pour le manager de transition, en tout cas ça a été difficile pour moi sur celle-ci, c'était de lâcher prise, parce que j'ai vécu un rêve éveillé pendant 8 mois, c'était fabuleux de travailler au contact de Jean-Paul Gaultier et de son équipe. Le matin, j'arrivais tôt à 8h et au studio au 7e étage, ils arrivent plutôt vers 11h midi. Et je montais directement au 7e étage dans le bureau vide de Jean-Paul Gaultier qui était baigné de soleil. Et seules étaient là les femmes de ménage. Je les appelais les fées du logis. Et j'allais leur dire bonjour. Mais la vraie raison pour laquelle je montais, c'est que je trouvais que c'était un kiff. Je prenais mon pied. J'adorais aller juste regarder cet endroit qui était magique et voir l'évolution de son travail. Alors que tout était calme. J'y retournais dans la journée, mais c'était un moment de grâce pour moi. Et le lâcher prise donc de tout ça a été quand même les quelques jours qui ont suivi la mission. Heureusement que je suis partie en vacances parce que ça a quand même été une sorte de petit mission blues comme je l'appelle. Tellement elle était extraordinaire cette mission. Donc voilà. Juste pour conclure, et vous voyez, on aura 10 minutes encore d'échange si vous le voulez. Je voulais vous faire partager ces photos qui sont des bons souvenirs. Une photo de la fête des Catherinettes, où j'étais, le data thématique, c'était l'océan. C'était le CSE qui avait trouvé cette thématique et il disait « c'est parce qu'on est sous l'eau ». Je trouvais que leur humour était plutôt sympa. Effectivement, j'étais déguisée en crabe et je me suis marrée. Jean-Paul me disait « la pêche était bonne, heureusement qu'on t'a trouvé voilà. ». Et puis moi, je lui disais « ensemble, on a gardé la tête hors de l'eau ». La photo du milieu, c'est une autre fête, c'est celle que nous avons vécue après le défilé. J'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs avec une petite partie de cette photo parce que je n'ai pas réussi à la mettre tout entière sur le post. Mais j'exprimais le fait que je trouvais que cette photo d'équipe, elle était lunaire parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas la faire avec le confinement et les risques sanitaires. Mais juste avant, c'était fin janvier, le 22 janvier, cette fête a dû être, je crois que c'était le 27 ou le 28. On était tous ensemble sur le grand escalier et on a passé une soirée absolument magnifique avec, on a dansé, on a ri et c'était aussi bien la fête de mon départ que surtout celle de Jean-Paul aussi et de toutes ces équipes qui avaient travaillé ensemble. Mais à côté de Jean-Paul, il y a Mireille dont je vous ai parlé. Voilà. Et finalement, eh ben, ça n'est qu'à nous revoir parce que Jean-Paul m'a dit quelque chose de très gentil. Il m'a dit « Élodie, le chapitre n'est pas fini, j'ai besoin de me reposer ». Mais je vais faire beaucoup d'autres projets et j'aimerais qu'on continue un jour à travailler ensemble. Bon, c'est peut-être un vœu pieux, hein, mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de l'entendre me le dire. Et j'étais ravie, tout comme je pense l'équipe, de pouvoir faire ce bout de chemin ensemble. Voilà pour ce compte-rendu de mission. Et je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions ?
Merci Elodie.
Merci Elodie, merci.
Je vous en prie.
Très belle histoire.
Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Alors, par curiosité, au tout début, on a vu qu'il y avait 30 clientes en haute couture. Elles ont été sondées, on a un retour sur ces 30 clientes, sur le nouveau directeur artistique ou le fait que Jean-Paul...
Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas pu vraiment leur présenter la nouvelle directrice artistique puisqu'elle n'était pas sur place. Donc, ça a été annoncé par la presse. Heureusement, Franck, le directeur commercial, est en relation très proche. Et puis, comme il n'y en a pas, j'allais dire, il n'y en a pas 36, c'est le cas, il n'y en a pas 36, il peut les appeler individuellement et leur expliquer ce qui va se passer. Et même avant l'annonce officielle, un jour, Franck est venu dans mon bureau et m'a dit « Écoute, Elodie, il faut que tu me dises ce qui va se passer parce qu'il faut que je puisse annoncer à mes clientes, sinon moi, je n'ai aucune crédibilité. » Et donc, je l'avais préparé à l'annonce à ses clientes. Concrètement, certaines sont choquées et déçues, mais globalement, elle trouve que c'est une excellente chose qu'ils partent en bonne santé et qu'ils restent solidaires de ce nouveau projet et que ce soit lui qui ait eu l'idée et qui ait choisi, en tout cas c'est lui qui a choisi la première directrice artistique. Par la suite, il est possible qu'ils prennent plus de recul, mais ce qui compte, c'est vraiment la première impulsion. Tout à l'heure, Marion, tu parlais de toutes ces ruptures, c'est vrai que c'est inquiétant, mais d'un autre côté, si ça part du bon pied et que ça le la mayonnaise prend, comme on dit, ça peut très bien se passer. Mais le premier directeur artistique est celui qui va donner le ton et il n'a pas droit à l'erreur. Elle n'a pas droit à l'erreur, en l'occurrence.
Elodie, bonjour Jocelyn. Merci beaucoup bonjour, pour Jocelyn. Ce retour d'expérience. On a l'impression qu'on était vraiment avec toi chez Jean-Paul Gaultier. C'était extrêmement riche. Tu nous as parlé du nouveau DG en nous disant qu'il avait été mis au frais pendant 4 mois chez Puig. Est-ce que comment s'est passée son arrivée physique au sein des équipes? Combien de temps vous avez été en présence ensemble? Et est-ce que tu as formalisé cette période-là avec des rencontres, des rituels, je ne sais pas?
Alors, je te remercie de cette question parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoquée. Alors, en fait, ça a fait partie des premières promesses que j'ai faites à l'équipe et que j'ai tenues. Quand je suis arrivée, je leur ai dit, écoutez, je vous promets une chose, c'est que dès qu'il y aura du nouveau, je vous le dirai. Et dès que je pourrai vous donner des nouvelles et vous présenter le nouveau DG, je le ferai. Et 4 mois plus tard, quand il est arrivé, juste avant son arrivée, je leur ai annoncé l'arrivée d'un nouveau DG. Et comme ça faisait que 4 mois que j'étais là et que ça se passait bien, ils ont un peu fait la tête. Mais je leur ai dit, vous savez, je tiens ma promesse, je vous le dis, et on va travailler ensemble avec lui pour que ça se passe bien. Et ça les a beaucoup rassurés. Et en fait, je suis allée étage par étage, plutôt que les réunir tous dans la grande salle du défilé, ce qui aurait été une option. J'ai préféré ajuster mon discours à la mentalité de chacun des étages, puisque je vous ai dit que c'était différent. Et je sentais que certains étages étaient plus inquiets que d'autres. Et notamment, les plus inquiets, c'était ceux qui travaillaient le plus proche avec Jean-Paul Gaultier, donc le studio. Et ceux-là, je les ai presque assis par terre avec des mouchoirs, quoi. Ce que je n'ai pas tout à fait à l'atelier. Donc, je me suis adaptée, j'ai adapté mon discours, mais le message, finalement, il a été de leur dire... on travaille en confiance, regardez, j'ai les nouvelles, je vous le dis, et vous allez prochainement l'apprendre. Et effectivement, le lendemain, il y avait une annonce officielle par Pouch de l'arrivée du nouveau DG. Alors évidemment, ils m'ont dit, la première chose, ils m'ont dit, comment il s'appelle? Alors je leur ai donné le nom de cette personne, et qu'est-ce qu'ils ont fait en séance? Ils ont googlé. Et là, quoi? Mais il est jeune, il est là, et puis ils ont vu certains commentaires qu'il avait fait sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas très heureux, et donc voilà, tout de suite, on a rectifié le tir, et ça a permis d'anticiper des appréhensions et donc de préparer son arrivée. Et finalement, ils se sont habitués à son arrivée. Et ensuite, quand ils ont accusé le coup, ils m'ont dit « bon, on veut le voir ». Je lui ai dit « avec plaisir ». Et du coup, je l'ai invité et il a fait le tour des services. Je lui ai donné l'occasion de se présenter. Donc, ils pouvaient mettre une tête à leur futur DG, ce qui ne les a pas forcément rassurés au départ. Après, je l'ai invité à la soirée des Catherinettes. Et je lui ai dit, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te déguises, parce que sinon, il faut que tu rentres dans le jeu. Donc, je l'ai accompagné sur toutes les étapes, et en fait, progressivement, il est venu, mais il venait invité. Je restais maître du jeu, si je puis dire. Et à un moment donné, on a décidé ensemble, avec le nouveau DG, qu'il allait commencer à prendre la main. Hein? Et là, pour le coup, je me suis effacée très vite, parce que ça allait être compliqué pour lui si je restais dans les parages, parce que quand on a des habitudes, des routines avec les équipes, voilà, c'est inconfortable pour lui, mais il n'y a pas eu de malaise parce qu'en fait, moi, je n'étais pas mal à l'aise. La force du manager de transition, justement, c'est de partir sans aigreur. Hein, je dirais, ma tristesse, elle était triste de quitter cet environnement, mais c'était pas, j'en voulais pas au nouveau DG, il n'y avait pas d'aigreur, ça s'était très bien passé. Donc, du coup, la transition s'est bien passée. Quand ça se passe bien entre l'ancien DG et le nouveau DG, c'est toujours plus facile pour les équipes. Donc, elle a été finalement très, très douce, cette transition. Et merci de me le rappeler, parce que je n'en avais pas parlé.
Élodie, Sébastien, à nouveau. Tant qu'on ne m'arrêtera pas, j'aurai des questions.
moi, j'ai du temps.
Bon, en tout cas, pour commencer, tu nous as dit avoir vécu un rêve éveillé pendant 8 mois. Je te remercie. Personnellement, manager de transition, membre de 400, je viens de vivre un rêve éveillé pendant 2 heures. Avec son récit.
Merci.
Vraiment passionnant et très inspirant voilà, pour, en tant que manager de transition. Alors, ma question, j'en viens à ma question, elle porte sur la conduite du changement. Tu as parlé de la dynamique de groupe, des sous-groupes, des différents étages. Tu as mentionné également plusieurs des individus de cette équipe et tu as terminé ta présentation par une photo d'équipe. Donc, c'est très puissant. Merci. La question que je me pose, c'est qu'on sait tous que dans la conduite d'un changement important, explicitement ou pas, on fait un petit peu le mapping des gens qui vont être des soutiens à ce changement, des gens qui vont être des inspirateurs des autres, et puis parfois de quelques-uns qui peuvent être des freins, voire des gens qu'il va falloir isoler, voire exclure. Hein. Dans les 66 personnes en question, on peut supposer qu'il y avait bien un, deux freins. Voilà, on va dire comme ça.
Alors,
est-ce que tu l'as rencontré ?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y en avait beaucoup, des freins. Mais disons que ce sont des personnes passionnées par leur métier. Et les freins ou leurs objections sont plutôt des craintes qu'ils expriment, qui est relative à une situation et non pas à une personne. Donc, parfois, les personnes énervées, la colère, les conflits entre les gens, etc., étaient plutôt des conflits de crainte. Et là encore, je trouve que l'outil de la médiation est très puissant pour arriver à aider l'organisation à évoluer. Je suis convaincue que les organisations qui sont, comment on dit en anglais, conflict-wise, c'est-à-dire qui savent traiter ces conflits et donc ces personnes différentes parfois qui sont des freins en interne sont des organisations plus performantes. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites. Je n'arrive pas à les retrouver, mais il faudrait que j'en retrouve une aux États-Unis. Et donc, oui, je fais quand j'arrive en mission ce que j'appelle un organigramme d'influence. Alors, c'est top secret, hein. Ça je le divulgue à personne parce que parfois il y a des relations intimes entre les personnes qui peuvent créer des liens particuliers dont on ne peut pas parler, mais qui sont extrêmement importantes pour le manager de transition, parce qu'effectivement, en le sachant, on va peut-être éviter certains écueils, on va s'appuyer sur certaines personnes. Moi, j'utilisais beaucoup, en fait, certaines personnes pour faire passer des messages. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire. Je ne vous ai pas parlé d'une personne extrêmement importante dans cette mission, qui était mon assistante. Elle avait été précédemment l'assistante de Jean-Paul Gaultier, il n'en avait plus voulu parce qu'elle était trop bavarde et qu'elle avait divulgué des informations confidentielles. Donc, un jour, Jean-Paul est arrivé dans mon bureau hyper énervé, et il a claqué la porte et il m'a dit « Élodie, il faut que je vous parle de Chantal !» Et en fait, tout ce qu'il voulait me dire, c'était tout bien qu'il en pensait. Évidemment, il n'en pensait pas beaucoup. Et en revanche, Chantal a été pour moi extrêmement forte, utile, parce que de son défaut, j'en ai fait une qualité. Dans la mesure où je savais qu'elle parlait trop, ben je peux vous dire que dès que je voulais faire passer un message, je le disais à Chantal. Et Chantal, qui connaissait tout le monde, elle allait le dire. Et de manière informelle, ça remontait. De la même manière, Chantal, qui avait bien compris que j'étais une alliée et je la valorisais dans son travail, ce qui n'avait pas été le cas précédemment, elle a revécu avec moi, donc elle était hyper contente. Et ce qui veut dire que, par capillarité, elle me redescendait aussi toutes les informations utiles qui pouvaient m'éviter de me prendre les pieds dans le tapis. Donc, grâce à elle, j'ai pu avancer extrêmement vite. Bon, c'est un exemple. Hein. Après, il y en a eu d'autres. Mireille, la première d'atelier de Jean-Paul, si je ne m'étais pas entendue avec Mireille, ça aurait été compliqué parce qu'elle a une place très importante. De la même manière, la fameuse Raymonde qui est au CSE, ça passait ou ça cassait. Si je me l'étais mise à dos, j'aurais eu tout le CSE à dos.
Il y avait quelques personnes clés comme ça, et certaines qui étaient très disruptrices parce qu'elles étaient maltraitées par les précédentes équipes ou mal comprises. Ben, ces personnes-là, en fait, je les ai vues individuellement. J'ai vu tout le monde individuellement, en fait. Et du coup, rapidement, on a créé un lien de proximité, et j'ai vu que les personnes, certaines personnes étaient inquiètes, faibles, et finalement souvent les détracteurs, ce sont des personnes qui sont mal à l'aise ou qui sont faibles, hein, donc faibles, je ne veux pas dire manque de confiance en elles, hein, je dis ça sans esprit critique pour la personne, et en rassurant ces personnes, on en fait des alliés et on retourne la situation. Et puis vous savez, il y a des détracteurs qui resteront toujours des détracteurs, mais dans une équipe, quand vous avez la masse critique qui avance et qui est positive, je peux vous dire que les autres y suivent naturellement, et, ou alors ils partent. Chez Jean-Paul Gaultier, personne n'est parti. Par le passé, j'ai eu des situations à retourner. Il y a des personnes qui n'avaient plus leur place et qui étaient négatives. Et au bout d'un moment, on s'en sépare parce que sinon, vous savez, c'est comme dans un panier de fruits. Vous laissez la pomme pourrie, elle pourrit le reste. Bon, bref, parfois, il faut qu'on prenne des décisions qui ne sont pas faciles, mais qui sont de se séparer de certains collaborateurs. Mais là, ça n'a pas été le cas. En tout cas, ce n'était pas mon rôle non plus à ce moment-là. Hein. J'avais besoin de toutes mes forces vives. En revanche, mon successeur va devoir se séparer d'un certain nombre de personnes de grand talent. Et très sincèrement, j'ai mal pour lui, j'ai mal pour eux. Et j'aurais pu le faire avec de l'humanité. Et voilà, je pense que j'aurais pu l'aider à gérer le plan de restructuration pour qu'il puisse se concentrer sur la phase de développement. Mais ça n'était pas écrit ainsi.
Merci, Elodie. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Donc, tu as inauguré une série de retours d'expérience sur mission que on va continuer au mois de juin avec un prochain atelier avec trois personnes qui vont faire un retour d'expérience sur leurs missions différentes, et on va essayer de faire en sorte d'industrialiser ça. Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup à
Merci
tous.
Merci à vous tous de votre écoute, de vos commentaires.
Encore une petite minute, si vous êtes tous d'accord. J'aimerais donner la parole une minute à Françoise. Françoise, donc, qui représente aujourd'hui le réseau PWN. Françoise, peut-être le pitch en une minute de ce réseau féminin professionnel français.
Alors, voilà. Je suis la présidente du réseau Professional Women Network qui existe depuis presque 25 ans à Paris, qui a été fondée à Paris par Aviva Wittenberg-Cox. C'est un grand nom très, très connu sur la place. Donc, présidente depuis 5 ans et demi. Notre objectif, c'est d'accélérer, développer la carrière des femmes, puisque dans les managers, eh bien, on voit qu'en France, elles ne sont que 17%, donc c'est un déséquilibre. Et nous, on vise véritablement à avoir une société plus équilibrée. Donc voilà, j'étais ravie aujourd'hui de t'écouter, Élodie. C'est vraiment un plaisir. On est tous restés, on est fans de Jean-Paul Gaultier et aussi de ton expérience, voilà, très chaleureuse et rayonnante. Et puis avec 400 partners et sur l'initiative de Nandini, merci à elle. Eh bien, on a le projet de grandir tous ensemble et pour 400 partners. Véritablement de piocher dans le vivier PWN Paris qui regroupe 700 femmes, des senior managers et des dirigeantes, des entrepreneurs pour véritablement proposer pour celles que ça intéresse de rejoindre 400 partners et pour Bruno d'avoir la possibilité de proposer sur chaque poste. Bruno, si je m'avance trop, mais de proposer et des profils féminins et des profils masculins pour vraiment faire avancer les entreprises et puis la société dans sa globalité. Et la performance, hein, de manière sous-jacente, bien sûr, il y a la performance et puis la compétitivité française.
Merci Françoise, effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et à notre dernier séminaire de jeudi dernier, vous avez peut-être vu le compte-rendu que vous en a fait Laurent ce matin, l'idée, effectivement, c'est de tendre, peut-être pas vers une parité exacte, c'est pas, ça serait peut-être ça va être difficile, je ne vous le cache pas, dans ce monde-là, mais de passer de 29%, qui est notre taux actuel, à tendre vers un taux de 40%. Donc, c'est effectivement un idéal, voilà, un souhait, et on va y mettre les moyens.
Ben, merci. Merci à tous.
Merci, Françoise.
Merci à tous de votre participation et donc à la prochaine fois pour un atelier 400. Bonne fin d'après-midi.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci Elodie.
Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Portez-vous bien.
Également.